Il est 6h57 sur Europe 1. Très bon réveil, très bonne journée. L'info continue, c'est le 7-9 qui démarre avec Mathieu Belliard. Moi, je vous retrouve demain matin, dès 5h. Très bonne journée, à demain. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien Krebs et bonjour à toutes et à tous. Jeudi 24 septembre 2020 sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changé. Beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. L'épidémie, les nouvelles restrictions, bien sûr, les niveaux de rouge sur la carte de France. Mais aussi un hommage. Juliette Gréco nous a quittés hier à l'âge de 93 ans.
La seule chose au monde que je ne voudrais pas, c'est être une charge, un devoir, c'est être lourde. Je voudrais rester légère jusqu'à la fin de ma vie.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est d'amour tendre.
Chanteuse, actrice et tellement plus sur Europe 1, vous entendrez Juliette Gréco dire ce que c'était pour elle que d'interpréter les plus grands, Prévert, Brel, Brassens, Gainsbourg, Vian. Hommage à la Gréco ce matin, sa voix et sa musique surtout que vous écouterez. Et ça fait du bien, un peu de musique, parce que la une n'est pas forcément réjouissante. Cette nouvelle carte de France, ces nouvelles restrictions et déjà des débats, tous les détails dans nos journaux, des mesures douloureuses mais nécessaires. Rémi Salomon de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit François Asselin, le président de la Confédération des PME. Toujours cet arbitrage entre l'urgence économique et l'urgence sanitaire. Notez bien également que nous appellerons Guy Forget, directeur de Roland-Garros. Peut-on imaginer du public ce week-end? Nous lui poserons la question. Nous allons revenir longuement sur la situation sanitaire, mais pas seulement. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a cette journée capitale au procès des attentats de Charlie, la question des failles des services de renseignement. Cette info Europe 1, des conducteurs sans assurance qui font plus de victimes et qui coûtent plus cher en indemnisation. Et puis le congé paternité aussi, on va en reparler dans des entreprises mieux-disantes qui font déjà plus que ce que propose l'État. Voilà quelques éléments comme ça du programme ce matin. Il est 6h59, très bon réveil à toutes et à tous. Nous accueillons Laurent Cabrol pour la météo.
Eh bien, pour parler d'un temps tout aussi agité, l'agitation est également dans le ciel. Hier, nous avons eu une trombe, c'est-à-dire une tornade sur la mer, au large d'Oléron, qui a touché le port des barques, et il n'y a pas eu de victime, fort heureusement. Mais enfin, l'agitation est à son comble sur l'ensemble des régions de France, et ce sera le cas aujourd'hui, y compris dans les terres. Alors, nous aurons des vents de 100-110 km/h sur les côtes atlantiques comme sur les côtes de la Manche, jusqu'à 70-80 dans les terres. C'est dire si vraiment ça s'annonce très agité. Alors, les régions les plus touchées seront l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse, mais ce, dans l'après-midi. Et puis, sur la Normandie, la Picardie, le Nord, Champagne, Ardennes, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, région parisienne, progressivement dans la matinée. Nous verrons arriver ce temps vraiment gros avec des orages, de la pluie. Bref, en fin de journée, pratiquement toute la France sera sous un ciel des plus controversés, avec à la fois des orages, de la pluie et de la grêle. Attention, y compris le vent.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Belliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changé. Il est 7h, bon réveil à tous.
Encore une fois, si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, fait un peu plus attention à la distance et au respect des gestes barrières, alors nous réussirons à vaincre ce virus.
Un appel à la responsabilité lancé hier soir par Olivier Véran, mais aussi des restrictions plus sévères, notamment pour les deux zones d'alerte renforcées, Aix-Marseille et la Guadeloupe. Les bars et les restaurants devront fermer dès samedi. Dans les 69 départements en alerte, les fêtes en tout genre, et notamment les mariages, seront limités à 30 personnes. Difficile à admettre quand on prépare le jour J depuis des mois, certains comptent déjà transgresser la règle. Une école clandestine musulmane fermée par le ministre de l'Intérieur à Sevran, mais officiellement pour raisons sanitaires, on va vous expliquer pourquoi. Et puis une voix s'est éteinte, et quelle voix? Celle de la jolie môme, rauque, gouailleuse Juliette Gréco, qui avait chanté les textes des plus grands, Prévert, Brel, Gainsbourg, mais aussi Benjamin Biolay et Miossec.
Juste après ce journal, les banques ont-elles encore besoin d'un réseau d'agences? L'éclairage éco de Nicolas Barré, le sacre très discret de Loukachenko en Biélorussie, le regard international de Vincent Hervouet. Il faut sauver les clubs et oublier les enjeux sportifs. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Non pas 50, mais 3 nuances de rouge dans la nouvelle carte de France présentée hier soir par Olivier Véran. Du rouge clair pour les zones d'alerte, du rouge foncé pour les zones d'alerte renforcées et même du très foncé pour celles en alerte maximale. Avec vous Anne Le Gall, on y voit plus clair ce matin.
Oui, alors l'alerte renforcée, pour faire simple, concerne des villes dans lesquelles le virus circule dangereusement, notamment chez des personnes âgées. 11 villes sont concernées, Paris et sa couronne, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, des villes qui s'ajoutent à celles de Bordeaux, Lyon et Nice qui étaient déjà dans ce cas de figure depuis quelques jours. Et dans toutes ces villes, les règles sanitaires vont devenir plus strictes. Les bars fermeront au plus tard à 22h à partir de lundi. Les rassemblements y seront limités à 1000 personnes au lieu de 5000. Et toutes les salles de sport, les gymnases et les salles des fêtes resteront fermées pendant au moins 15 jours.
Dans ces zones d'alerte renforcée, les restaurants échappent aux restrictions. En revanche, dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, le ministre de la Santé annonce un tour de vis supplémentaire.
Oui, et c'est parce que la Guadeloupe et l'agglomération d'Aix-Marseille ont été placées, elles, en zone d'alerte maximale. C'est encore un cran au-dessus, car dans ces zones, la situation commence à devenir inquiétante dans les services de réanimation. Et pour enrayer la circulation du virus, il faut donc frapper plus fort. D'où la fermeture pure et simple des bars et restaurants et de certains lieux publics. D'où la protection des EHPAD, qui est également renforcée avec des visites sur rendez-vous et davantage de tests. Enfin, le télétravail doit être privilégié dans ces zones. Autant de mesures qui s'appliqueront pendant au moins 2 semaines en concertation avec les préfets.
Alors Anne Le Gall, vous parliez donc de 2 semaines de restrictions, qui sont d'ailleurs particulièrement mal vécues à Marseille, où dès hier soir, la maire Michèle Rubirola exprimait sa colère sur Twitter. « Je n'accepte pas que les Marseillais soient victimes de décisions politiques que personne ne peut comprendre. »
Pourtant, Olivier Véran s'est voulu très clair hier soir. Pour Marseille, comme pour tout le reste de la France, chacun à son niveau doit faire un effort et limiter ses contacts avec l'extérieur autant que possible.
« Il ne faut pas multiplier les dîners. » Il faut éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes. Encore une fois, si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, fait un peu plus attention à la distance et au respect des gestes barrières, alors nous réussirons à vaincre ce virus. Certains pays ont parlé du concept de bulle sociale. C'est un peu le concept dont je vous parle ce soir, avec cet effort collectif qui est la clé de notre capacité à maîtriser le virus.
Un effort collectif, ça passe aussi dans les 69 départements en alerte par des fêtes en plus petits comités, que ce soit des anniversaires, des événements associatifs ou encore des mariages. Ce sera 30 personnes, pas une de plus.
30 personnes, très mauvaise nouvelle pour Lucie qui a prévu de se marier le 3 octobre dans la Drôme. 2 ans qu'avec son fiancé, elle organise tout pour le grand jour. Alors, pas question de limiter sa liste d'invités.
Il est hors de question pour nous de choisir 30 invités. Ça sera non. Je fais déjà un premier choix à la mairie. Je ne pourrai pas avoir mes grands-parents qui vont entendre le oui qui m'engage à la mairie. Donc à un moment donné, je dis stop, j'ai eu assez de concessions. Ma salle me suit, mon photographe me suit et on se marie coûte que coûte à 58 personnes dans moins de 10 jours. J'entends parfaitement qu'il faille à un moment donné poser des limites. Mais moi aussi, à mon mariage, il y aura des gestes barrières. Moi aussi, il y aura du gel. Moi aussi, les gens seront masqués. Mais aujourd'hui, j'accepte pas de devoir payer le prix d'avoir eu des plages bondées pendant l'été, d'avoir eu des restaurants avec des terrasses bondées. Et pourquoi on m'interdit à moi aujourd'hui alors que je me suis privée pendant des mois? Et bien aujourd'hui, moi, je choisis de prendre le risque. Tant pis si on est hors la loi, je vais pas me laisser gâcher mon mariage.
Voilà, Lucie, au micro de Romane Auquet. À Paris, on l'a dit, les bars vont fermer au plus tard à 22h à partir de lundi. Risque économique immense, dit-on à la mairie. L'horaire précis dans la capitale, comme dans les 11 villes concernées par l'alerte renforcée, sera décidé par les préfets.
Michaël Darmon, ce que vous nous révélez ce matin, c'est que tout n'est pas réglé, qu'il reste une marge de négociation sur des sujets sensibles, notamment les lieux de culte.
Et oui, parce qu'en principe, l'annonce de la fermeture des salles de fête obligerait notamment les rencontres pour les communautés juives qui veulent organiser donc, la fête de Kippour ce week-end, et ce serait impossible. Donc, le consistoire négocie actuellement avec les autorités. Et c'est la même chose pour les autres religions, y compris à Marseille, zone d'alerte renforcée. Les lieux de culte ont été épargnés, ce qui n'est pas anodin concernant le culte musulman, alors que le ministère de l'Intérieur est en pleine préparation d'un projet de loi très délicat sur le séparatisme. séparatisme. Plus généralement, je peux vous dire qu'effectivement, il existe de fortes divergences au sein du gouvernement entre ceux qui pensent qu'il ne faut pas hésiter à se montrer restrictif et ceux qui craignent que les Français à bout de nerfs n'acceptent pas ce nouveau tour de vis.
Et c'est la raison pour laquelle Olivier Véran a tenu à annoncer lui-même ces nouvelles restrictions, Michael.
Oui, il y a eu un bras de fer toute la journée. Olivier Véran a tenu à endosser cette responsabilité politique alors que la préfecture de police, elle, voulait le faire. Une question d'autorité pour Olivier Véran qui a été, on s'en souvient, mis sous pression lors d'un précédent conseil de défense à propos de la qualité du plan qu'il proposait. Matignon a finalement tranché. Le ministre de la Santé a pu lancer le tour de vis. Vouloir à tout prix annoncer de mauvaises nouvelles, voilà qui n'est pas anodin.
Michael Darmon, merci Michael. Et François Asselin, notez-le, il y a deux volets, vous le savez bien, l'urgence sanitaire et l'urgence économique. François Asselin, patron de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, sera l'invité politique de la matinale à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. 7h07 sur Europe 1. C'est une journée importante qui s'annonce dans le procès des attentats de janvier 2015. La cour d'assises va se pencher sur les antécédents des auteurs des tueries de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher.
Oui, leur parcours, leur radicalisation, illustration de la difficulté de lutter justement contre une certaine forme de radicalisation, les écoles musulmanes clandestines. En fait, ce ne sont pas vraiment des écoles, mais des associations qui prétendent enseigner. Gérald Darmanin, qui défend sa future loi sur les séparatismes, a décidé de fermer l'une d'elles à Sevran, en Seine-Saint-Denis, mais officiellement pour des raisons sanitaires. Virginie Riva.
C'est le maire de Sevran qui signale la fausse école à la préfecture il y a un an, alerté par les va-et-vient de parents devant d'anciens hangars près du centre commercial de la ville. Effectivement, l'association Amana accueille un peu plus de 70 élèves, alors que la plupart sont déclarés officiellement par leurs parents en instruction à domicile. Deuxième problème, l'école n'est pas déclarée comme telle à l'éducation nationale. Pourtant, sur un site internet qui répertorie les écoles musulmanes, l'association se présente bien comme une école privée dispensant des enseignements de niveau maternel et primaire. La préfecture fait son enquête, le ministre Gérald Darmanin parle d'endoctrinement des enfants, comprendre endoctrinement sur fond d'islam politique. L'école clandestine est finalement fermée jeudi dernier, mais pour raison sanitaire. C'est le seul motif prévu aujourd'hui par la loi. Le local n'est pas aux normes de sécurité. Impossible d'invoquer des raisons de contenu des enseignements, car pour l'éducation nationale, cette école n'existe pas. Elle peut simplement faire des inspections au domicile des enfants pour évaluer leur niveau. C'est tout l'objectif de la future loi, avoir des outils pour contrer ces associations sur le fond. Un phénomène à suivre, car ces écoles se développent également sur Internet.
Virginie Riva. L'Assemblée a largement voté la nuit dernière le projet de loi sur la recherche avec une hausse de budget de 30% entre 2021 et 2030. Il passera de 15 à 20 milliards d'euros par an. Et puis aux États-Unis, l'hommage officiel à la juge Ruth Bader Ginsburg se poursuit. Son cercueil est exposé à la Cour suprême à Washington. Donald Trump doit s'y rendre dans la journée.
Ils étaient des stars, chacun dans leur domaine. Et star, c'est un euphémisme. Le chef 3 étoiles, Pierre Troisgros, est mort hier près de Rouen. Il avait 92 ans. Et puis, la chanson française est en deuil, elle aussi.
Oui, Juliette Gréco, 60 ans de carrière, s'est éteinte hier chez elle à Ramatuelle. La muse de Saint-Germain-des-Prés est immortelle, écrivait Emmanuel Macron pour lui rendre hommage. Une vie de drame, d'amour et de rencontre. Angèle Châtelier.
Sous le ciel de Paris.
Un Paris qu'elle aura éclairé toute sa vie. La fin de la Seconde Guerre, loin de l'ivresse insouciante de la libération, Juliette Gréco a 15 ans, une orpheline sur les pavés de l'avenue Foch. Sa mère et sa sœur résistantes ont été déportées. Elle sera recueillie par une ancienne professeure, Hélène Duc, qui habite rive gauche, à quelques pas de Saint-Germain-des-Prés, qui deviendra son univers, sa scène, son royaume. Elle y rencontrera notamment Boris Vian et Jean-Paul Sartre, qui signera sa première chanson. La petite Juliette devient la grande Gréco. L'élégance, la poésie, l'intelligentsia parisienne, l'amante de Miles Davis, puis l'épouse du pianiste Gérard Jouannet. En 2009, elle confiait à Europe 1 de sa voix rauque ce que voulait dire servir un texte.
C'est essayer de rendre intelligibles des choses qui ne sont pas toujours, magnifier les mots, servir au maximum celui ou celle qui a écrit.
Il y a eu les mots de Robert Niel, deux mots, une irrésistible invitation, déshabillez-moi.
Dévorez-moi les yeux.
Puis les mots de Brel, de Gainsbourg, plus récemment ceux de Miossec, de Biolay. À quoi sert la vie si elle n'est pas un combat, si ce n'est pas un désir, répétait souvent celle qui monta sur scène pour la dernière fois en 2016, à 89 ans, enveloppée de son éternelle robe noire.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. À
avec délicatesse. Juliette Gréco, quelle voix et quel plaisir aussi de l'entendre ce matin.
C'est formidable d'entendre Déshabillez-moi à l'heure où on doit s'habiller. Non,
c'est ça, nos auditeurs ont la serviette autour de la taille, ils sont en train de se préparer. Déshabillez-moi. Écoutez bien, tout à l'heure, dans le journal de 8h, vous entendrez la voix de Juliette Gréco parler de ce que c'était pour elle que d'interpréter les plus grands en l'occurrence. L'interprétation selon Juliette Gréco, c'est à 8h tout à l'heure. Merci Hélène Zellani, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Nous devons voir moins de personnes, moins se retrouver, moins faire de dîner, moins aller dans les bars, les restaurants. Le virus circule, les hôpitaux se remplissent. Nous revenons longuement sur les annonces d'Olivier Véran hier soir. Une nouvelle carte de France de l'épidémie. Ces restrictions étaient-elles inévitables ? Le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris, sera mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Il est 7h12.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Les agences bancaires au coin de la rue sont-elles condamnées à se faire plus rares ? L'annonce hier d'une fusion entre les réseaux de la Société Générale et du Crédit du Nord signale peut-être le début d'un Big Bang.
Oui, alors cette annonce résonne vraiment très fort dans le monde bancaire qui emploie en France 360 000 personnes, la grande majorité dans les réseaux. C'est, pour situer les idées, c'est presque le double de l'industrie automobile quand même. Donc, et depuis des années, toutes les banques expliquent qu'entretenir un réseau d'agences coûte cher, que beaucoup d'entre elles ne sont plus rentables, les gens viennent moins, ils font toutes leurs opérations par Internet. Plusieurs banques nouvelles n'existent même qu'en ligne et n'ont pas de réseau en dur. Bref, l'agence bancaire au coin de la rue, effectivement, a un côté un peu ancien monde.
Mais pourtant, les banques ferment rarement des agences.
Alors, elles en ferment quand même, mais de temps en temps, à bas bruit, ça se voit pas trop. Et puis, les réductions d'effectifs se font en douceur via des départs à la retraite. Là, clairement, une grande banque, la Société Générale, donne pour la première fois le signal d'un mouvement beaucoup plus vaste de restructuration des réseaux bancaires. Ses dirigeants le disent, hein, il faut faire évoluer le modèle de banque de détail pour l'adapter aux défis des 10 prochaines années. Ce sont donc tous ces métiers de chargé de clientèle, conseillers commerciaux, directeurs et directrices d'agences, conseillers en gestion de patrimoine qui sont sous pression. La Société Générale possède 1749 agences sur tout le territoire. Le Crédit du Nord, sa filiale, en dispose de 679. Et dans les deux réseaux, eh bien évidemment, on redoute les conséquences sociales.
Nicolas Barré, on imagine que les autres grands réseaux bancaires vont regarder ça avec attention.
Alors oui, regarde ça vraiment avec beaucoup d'attention, avec un bémol quand même, c'est que les autres grands réseaux en France sont des mutualistes, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel. Leur approche est différente, ils veulent absolument conserver un réseau dense, proche des gens. Ce sont des banques régionales avec un ancrage territorial fort, ils ont aussi des traditions sociales protectrices, disons. Il reste que le numérique et la baisse des taux d'intérêt pèsent aussi sur leurs marges. Entretenir un réseau d'agences en dur au coin des rues devient de plus en plus coûteux.
Nicolas Barré, merci beaucoup, il est 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Hier, le président Alexandre Loukachenko a été investi pour un 6e mandat à la tête de la Biélorussie.
Oui, alors Alexandre Loukachenko n'a toujours fait des tonnes, mais hier, il s'est surpassé son investiture. C'est une caricature. Le président sortant est sorti en courant de chez lui, l'un des 16 palais qu'il a accaparé au fil des années. Son cortège a remonté pied au plancher l'avenue des Vainqueurs. Elle était déserte, normale. Il n'y a que des perdants en Biélorussie en ce moment. Et puis, la police anti-émeute s'est déployée alentour, sans doute pour contenir l'admiration des foules qui ont voté à 80% pour le camarade Loukachenko, selon la version officielle. Un peu plus tard, l'agence d'État, l'agence Beta, si bien nommée, a révélé, surprise, surprise, que le président élu avait prêté serment. Loukachenko avait encore 15 jours pour organiser la petite cérémonie, inviter ses homologues, convier les ambassadeurs et les popes, mais il a préféré l'expédier en urgence, en secret et en présence d'un carré d'apparatchik. C'est un aveu. Ensuite, l'ancien directeur de ferme collective a mis un bel uniforme kaki avec sur sa calvitie une de ses casquettes soviétiques qui ressemble à une soucoupe volante mais avec laurier brodé. Et il a flatté les soldats au garde-à-vous en leur disant qu'ils avaient sauvé la paix. Dans la rue, les habitants de Minsk se sont alors coiffés d'une couronne en carton. Et les manifestations ont recommencé.
L'opposition ne faiblit pas.
100 000 manifestants de retour dans les rues dimanche. La coordination de l'opposition a été décapitée. Mais le canard court toujours. C'est d'autant plus méritoire qu'ils sont seuls. À Sotchi, on a vu Poutine, Mossad, laisser Loukachenko lui lécher les pieds. Il a promis 1,5 milliard de dollars. Un peu d'oxygène pour une économie en déroute. Et cette aumône finit de discréditer Loukachenko. Les Biélorusses ont le nationalisme tatillon. Pour l'instant, l'armée et les les services qui sont dans la main des Russes ne vont pas lâcher Loukachenko.
Et à l'ouest, Vincent ?
Alors, Svetlana Tikhanovskaya était lundi à Bruxelles. Les Européens l'ont ensevelie sous les hommages. Mais l'Union européenne n'a pas voté de sanctions contre Loukachenko et sa clique, car il faut l'unanimité. Et Chypre estime qu'il y a plus urgent, qu'il y a plus dangereux que Loukachenko, c'est Erdogan. C'est un chantage qui peut se comprendre quand on est chypriote. Tant pis pour les Biélorusses, tant pis pour l'Union européenne aussi. Et surtout, Loukachenko a sa couronne en carton et l'Europe son bonnet d'âne.
Merci Vincent Hervouet, il est 7h18. À suivre, le sport en salle menacé. Oublions les enjeux sportifs, il faut sauver les clubs. C'est ce que nous dira Virginie Fulpin dans son édito sport avant de retrouver Stéphane Bern et votre rendez-vous d'histoire. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Le discours du ministre de la Santé Olivier Véran hier soir laisse planer de nouvelles menaces sur des sports comme le basket, le handball ou encore le volley. Le sport en salle devra-t-il encore faire une pause ? Pour vous, de toute façon, cette saison, les objectifs sportifs passent au second plan. L'objectif premier, c'est la survie des clubs.
Mais qu'est-ce que ça veut dire la fermeture des salles de sport dans les zones d'alerte renforcée ? Est-ce que les championnats de basket, de hand et de volley vont s'arrêter à peine entamé. On n'en est pas encore là, hein, mais la menace est un peu plus précise depuis hier soir. On a la confirmation que les vrais problèmes commencent maintenant. La saison dernière arrêtée, les clubs ont paré au plus pressé. Hein. Ils ont fait appel aux prêts garantis par l'État, ils ont bénéficié du chômage partiel pour leurs employés. Mais aujourd'hui, on entre dans l'ère du vide parce que le contre-coup économique de la crise sanitaire est inévitable. Des sports comme le foot ou le tennis peuvent se permettre d'avoir des tribunes vides. Pas le basket, le hand ni le volley. Hein. C'est ce que dit le handballeur Nicolas Karabatic. D'ailleurs, nous, sans public, on ne peut pas continuer. Pourtant, le handball est le premier sport à l'école. Les équipes de France féminines et masculines sont multititrées au niveau international. Mais ça n'est pas ce qui fait vivre les clubs. C'est le public et les sponsors. Donc là, ils commencent une saison au mieux avec des jauges de spectateurs très réduites, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et la question qui les hante, c'est combien de temps on va tenir ? Alors, je ne dis pas que les objectifs sportifs sont totalement gommés, hein, mais les clubs vont d'abord essayer de survivre avant de regarder les classements. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, bien sûr. On ne va pas s'en faire pour le PSG handball ou l'ASVEL au basket. Ils vont s'en sortir, mais beaucoup d'autres ont le couteau sous la gorge. La crise sanitaire n'a fait que renforcer les inégalités et ce n'est pas fini. Hein.
Une crise économique dans ces clubs, ça veut aussi dire beaucoup d'emplois menacés.
Bah, le conseil social du mouvement sportif a tiré la sonnette d'alarme hier et il faut l'entendre, la crise, elle est devant nous. Les clubs professionnels connaissent une baisse considérable de leurs ressources et chaque discours d'un ministre peut signer leur arrêt de mort en gros. C'est pour ça aussi qu'on attend aujourd'hui les précisions du ministère des Sports sur les mesures immédiates avec une certaine fébrilité. Même si les clubs arrivent à ne pas mettre la clé sous la porte, la menace de licenciement d'employés plane. Le sport et notamment ces sports de salle contribuent à la vie sociale et économique de la France. Il ne faudrait pas que l'État oublie cette dimension. L'urgence, elle est là aussi.
Merci Virginie Fulpin et notez-le bien sur Europe 1. À 8h tout à l'heure, nous appelons Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros. La jauge à Roland-Garros passait de 20 000, 11 000, 5 000, 1000 nous dit-on maintenant. Est-ce que ce sera du huis clos ? C'est le week-end prochain Roland-Garros, on va en parler ce matin. Il est 7h23. Et c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un anniversaire puisque c'est un 24 septembre 1724 qu'est née la Bourse de Paris. Happy birthday la Bourse de Paris.
Ça se souhaite. Souhaitons-le.
Je comprends pourquoi Nicolas Barré a mis une cravate. Une expression financière pour fêter ça. Pourquoi dit-on que l'argent n'a pas d'odeur ? Eh bien, partons, si vous le voulez bien, pour Rome après le suicide de Néron. Les caisses de l'Empire sont au plus bas. Rendez-vous compte, il manque 4 milliards de sesterces pour faire fonctionner l'État. D'autant que Rome vient de brûler, il faut donc la reconstruire. L'empereur Vespasien ne néglige alors aucune source de revenus. Il décide de taxer l'urine en fonction du nombre de personnes présentes sous un toit.
Oui, mais taxer l'urine, ça veut dire faire payer l'accès à des toilettes ou récupérer l'urine à proprement parler ?
Eh bien, les deux, capitaine Béliard. Eh oui, non seulement les commodités n'étaient plus gratuites, mais le liquide était également récupéré et vendu aux teinturiers qui s'en servaient pour dégraisser les peaux, mais aussi préparer les tissus avant de les teindre et blanchir le linge grâce à l'ammoniaque dans l'urine. Titus, le fils de Vespasien, se moquait régulièrement de son père et de cet impôt qui pouvait sembler ridicule. Ce dernier a plongé sa main pour prendre des pièces d'or et de bronze en s'exclamant « Pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur ». Vespasien resta surtout célèbre à travers l'histoire pour cette façon originale de remplir les caisses, mais aussi grâce aux Parisiens qui ont baptisé leurs toilettes publiques au XIXe siècle les Vespasiennes.
Effectivement. 16h, historiquement vôtre, avec Mathieu Noël, Stéphane.
Et oui, on se demande, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Pas le vôtre, Mathieu, mais celui de trois chapeautés célèbres de l'histoire. Giuseppe Borsalino, inventeur du célèbre couvre-chef du même nom, Charlie Chaplin et son personnage de Charlot, et Geneviève de Fontenay. Bref,
Bien sûr.
Raconte l'histoire de toutes les tailles, la grande, la petite, la moyenne, avec Mathieu Noël, 16h-18h sur Europe 1.
A tout à l'heure, Stéphane.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h26 sur Europe 1, à suivre la météo, Laurent Cabrol et un nouveau journal à 7h30. Il est 7h29 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo. Je vois votre mine préoccupée sur le regard de la carte de France.
J'ai pas de bonne nouvelle à donner à nos amis parce qu'effectivement, c'est un temps très très agité. Il suffisait hier après-midi de traverser la France en avion. On s'apercevait dans les hautes sphères que nous avions des orages énormes sur le pays.
Vous vous rendez compte de ce qui... Pardonnez-moi, je prends juste un instant pour nos auditeurs. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait Laurent Cabrol? Prend l'avion pour aller vérifier les nuages là-haut.
Ah ben,
ce dévouement quand même.
Hier après-midi, c'était le cas. Et donc, on naviguait entre les orages. Et aujourd'hui, ce sera le cas. Alors, pour l'instant, le temps est relativement calme. Mais sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, le Vallée du Rhône, Côte d'Azur et Corse, nous aurons dans l'après-midi un temps extrêmement agité avec des vents de 100 km/h au sol, hein, 100 km/h sur les côtes, 80 km/h dans les terres. En l'air, là-haut, en altitude, nous avons des vents à 200 à l'heure. Alors, sur la Bretagne, Midi-Pyrénées, le littoral méditerranéen, les pluies seront un peu plus calmes, ce sont des pluies éparses. Mais vous avez compris qu'il pleuvra. Et puis, il pleuvra aussi sur la Normandie, la région parisienne, le Poitou-Charentes, la Champagne-Ardenne et le Nord. Bref, c'est une journée pluvieuse en tout lieu. Et nous aurons donc ce temps très agité aujourd'hui et demain, avec des températures qui sont partout à la baisse. 18 à Paris, 19 à Dijon, 20 degrés à Bourges, mes amis, 22 à Colmar et 25 à Marseille.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer.
Bien savoir si on peut servir des boissons après 22h, en sachant que notre cuisine ferme à 23h. Je ne sais même pas si on va continuer à travailler. C'est incompréhensible, c'est catastrophique.
Le nouveau casse-tête pour les tenanciers de bars dans les zones d'alerte renforcées, obligés de fermer leurs portes à 22h à partir de lundi. Elles avaient fait leur possible pour s'adapter, mais cela n'a pas suffi. Les salles de sport, elles aussi, vont devoir refermer leurs portes. Les conducteurs sans assurance continuent de sillonner les routes. C'est une information Europe 1, plus de 28 000 victimes l'année dernière et cela coûte de plus en plus cher. Et puis dinette pour les filles, petite voiture pour les garçons. On fera le point sur le marketing genré dans les jouets pour enfants.
Olivier Véran appelle donc les Français à réduire leurs interactions sociales. Nouvelle carte, nouvelle restriction. Le président de la commission médicale de l'APHP, Rémi Salomon, dans le tête-à-tête Europe Matin. C'est une nouvelle guerre qui commence et les Français vont devoir se montrer responsables. L'édito politique de Nicolas Bétou. Avant de retrouver Nicolas Canteloup qui coach l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, François Asselin, président de la CPME. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La situation continue globalement de se dégrader. Les mots d'Olivier Véran hier, alors que le ministre de la Santé était en train de dévoiler les nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie. Parmi ces nouvelles restrictions, la fermeture des bars à 22h dès lundi dans les zones d'alerte renforcées, à savoir Paris et la plupart des grandes villes françaises. Un nouveau coup de massue pour les professionnels qui avaient déjà perdu beaucoup d'argent avec le confinement. Nicolas Feldman.
22h45, sur une terrasse du 10e arrondissement, Florent sert une dizaine de tables. Dans 4 jours à la même heure, tout devra être remballé.
Pour un bar, c'est là où on commence à travailler. Les gens sortent du restaurant. C'est de 22h à 2h du matin que ça cartonne. Ça peut être jusqu'à 40% du chiffre de la journée. On a déjà vu qu'au cours des derniers mois, il y avait énormément de business qui avait fermé. Et là, ça peut être vraiment un coup de grâce pour certains.
Dans l'établissement juste en face, pour éviter de fermer, 2 salariés sont au chômage partiel depuis 4 mois. En terrasse, une dizaine de clients sirotent un verre derrière le comptoir. Amokrane, le responsable, lui, détaille le menu.
On fait des planches, on a une carte restaurant, entrée, plat, dessert. Au niveau des boissons, on sert de tout. Donc on fait bien bar et restaurant.
Et c'est bien ce mélange des genres qui a de quoi perdre le gérant après les annonces du gouvernement.
J'aimerais bien savoir si on peut servir des boissons après 22h, en sachant que notre cuisine ferme à 23h. Je ne sais même pas si on va continuer à travailler. C'est incompréhensible, c'est catastrophique. On ne sait plus du tout quoi faire.
Ces bars qui font aussi restaurant devront-ils fermer passé 22h? Le préfet doit donner des précisions dans les prochains jours après consultation des élus locaux.
Un reportage signé Nicolas Feldman. À Marseille et en Guadeloupe, zones en alerte maximale, les bars et les restaurants fermeront totalement leurs portes à partir de samedi.
Autre annonce, la fermeture des salles de sport. Là aussi, la nouvelle est dure à encaisser pour les établissements déjà très durement touchés par la crise.
En tout cas, la mesure suscite l'incompréhension des gérants et des adhérents dans ce centre de fitness lillois où s'est rendu Lionel Gougelot.
À l'entrée de la salle de sport, la liste des recommandations sanitaires est impressionnante. Distanciation, désinfection, réservation obligatoire. Et les adhérents ne se sentent pas vraiment menacés ici par la contamination.
En général, tout le monde joue le jeu. Tout le monde nettoie sa machine. Les distances sont plus ou moins respectées. Les masques sont mis. Ça pose pas problème.
Une décision de fermeture qui stigmatise nos salles de sport, estime Emmanuel à l'accueil, alors que les règles ici sont particulièrement strictes.
On prend beaucoup de mesures par rapport à l'hygiène. On leur impose des règles, on leur impose des conditions. On garde la distanciation sociale, on fait en sorte que les adhérents puissent nettoyer leurs machines, venir avec leurs serviettes. Certes, c'est vrai qu'il y a une montée du virus, mais de là à ce que l'État nous bloque de cette façon, ça c'est dur.
Déception pour Camille, l'étudiante. Elle devra se passer de ces séances de sport qui lui font justement oublier le contexte anxiogène de l'épidémie.
C'est vrai que c'est dommage quoi, parce que le sport, on a vraiment besoin pour vivre, quoi, pour se défouler et puis même pour oublier l'anxiété face au virus. C'est-à-dire que le coronavirus revient, donc on est à nouveau menacé. Enfin, la situation est anxiogène et vraiment le sport, moi, me permet de me défouler. Mais ils ont pris toutes les mesures qu'ils pouvaient et je comprends pas du tout pourquoi c'est fermé.
Résignés, les adhérents de la salle de sport n'ont plus que 4 jours maintenant pour se défouler sur leur tapis de course ou leurs appareils de musculation. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
7h34 sur Europe 1. On va parler à présent de ce fléau sur les routes. Fléau difficile à contenir, les automobilistes qui roulent sans assurance.
L'année dernière, ces conducteurs ont fait près de 28 500 victimes selon le fonds de garantie révélé en exclusivité par Europe 1 ce matin. 28 500 dossiers à indemniser et le montant de ces indemnisations a bondi de 30% en 5 ans. Bonjour Aude Leroy.
Bonjour.
Comment expliquer cette hausse si importante ?
Eh bien, le paradoxe, c'est qu'il y a moins d'accidents de la route, mais ils sont plus graves avec des conséquences physiques de plus en plus lourdes pour les victimes. Selon Julien Arensky, le directeur général du fonds de garantie, c'est le résultat du comportement irresponsable de ces conducteurs non assurés. On estime qu'ils sont environ 800 000 en France.
Peut-être que les comportements au volant des conducteurs non assurés sont devenus plus agressifs, plus violents. Deuxième phénomène, les coûts de l'indemnisation des dommages corporels progressent, notamment la hausse des frais médicaux, la hausse de l'espérance de vie des victimes.
Et pour la première fois, Aude, le fonds de garantie dresse le portrait robot de ces chauffards.
Oui, c'est majoritairement un homme. Dans 60% des cas, il a moins de 35 ans. 30% d'entre eux sont chômeurs, 24% ouvriers. Ce sont donc des conducteurs aux conditions de vie modestes qui ne payent pas leur assurance. Mais parmi eux, on trouve de vrais délinquants de la route. Pas d'assurance, pas de permis de conduire, positif à l'alcool pour 20% de ceux qui sont impliqués dans un accident. C'est ce qui explique en partie la hausse constante des délits de fuite, plus 25% depuis 2009.
Les explications d'Aude Leroy.
C'était il y a un an, jour pour jour. Le gouvernement faisait signer une charte professionnelle du jouet pour tenter de mettre fin au marketing genré.
Le rose, la dinette et les poupons pour les filles, le bleu et les ateliers de bricolage pour les garçons. Aujourd'hui, la filière se réunit au ministère de l'économie pour renouveler cette charte avec de nouveaux engagements et de nouveaux signataires. Alors Élise Dangean, un an après, quel bilan peut-on dresser ?
Créateurs, fabricants et distributeurs de jouets sont unanimes. Ils ont tenu leurs engagements. Nouveaux produits, refonte des catalogues et de l'organisation des rayons, formation des vendeurs. Et en magasin, l'effet se fait déjà ressentir, selon Aïcha, maman de 4 enfants.
C'est vrai que maintenant, on trouve aussi des jouets qui étaient plutôt étiquetés garçons, qui sont aussi maintenant pour les filles. Bah, typiquement, jeux avec des fléchettes ou des choses comme ça, qui sont plus neutres.
Mais les packagings rose et bleu n'ont pas complètement disparu. Et pour cause, disent les professionnels, les clients sont demandeurs. C'est le cas de Bruno, par exemple, venu faire plaisir à son petit-fils.
Si vous lui ramenez une poupée ou une dinette, ça ne le fait pas, quoi, n'est-ce pas ?
Oui.
Oui. Voilà.
Franck Mattet, porte-parole de Jouet Club, le rappelle, le jouet est une industrie comme une autre qui répond à la demande.
Certains produits qui sont mixtes, l'année suivante, ils arrivaient en deux couleurs, avec une destination garçon et une destination fille. Et là, les ventes étaient entre 1,3 et 1,6 fois plus. Donc les fabricants, quand ils voient que les lignes, elles bougent doucement, eh bien, ils attendent en fait.
Et ils attendent notamment Noël prochain pour savoir si les clients sont prêts à se tourner vers ces nouveaux jouets mixtes.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Parlez-moi d'amour.
Et puis la disparition d'une voix, d'une icône de la chanson française. Juliette Gréco est morte hier à l'âge de 93 ans. Elle avait notamment interprété des textes de Jacques Brel, Serge Gainsbourg ou encore Boris Vian.
Je n'ai pas l'air de l'entendre.
Merci Sophie Echen.
Magnifique.
Pour le journal de 7h30 et pour ces quelques notes de musique qui le terminent. 7h38, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous l'avez compris, depuis le début de cette crise, la ligne de crête sur laquelle nous nous trouvons entre l'urgence sanitaire et l'urgence économique. Des nouvelles restrictions et de nouveaux appels au télétravail dans la voix du ministre de la Santé hier. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Quel est le niveau d'urgence aussi? La crainte de voir les hôpitaux débordés? Dans une minute, je reçois le professeur Rémi Salomon de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Le tête-à-tête Europe Matin à suivre. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. 69 départements classés en rouge. Alerte, alerte renforcée, alerte maximale. Nouvelle batterie de restrictions. Où en est-on de la deuxième vague? Vivons-nous le calme avant la tempête? Mon invité, le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique Hôpitaux de Paris.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Rémi Salomon.
Bonjour Mathieu Béliard.
Vous les entendez ces voix dans les journaux d'Europe 1, les patrons de bars, les élus marseillais, ce qu'a annoncé Olivier Véran hier soir. Vous dites quoi ce matin? Que c'est douloureux mais nécessaire?
Alors, moi je suis représentant d'une grande communauté médicale, hein, d'un groupe d'établissements, l'APHP à Paris. Je discute également avec mes collègues de province. Et donc je suis là ici pour informer les gens de ce qui se passe à l'hôpital. Et c'est important pour que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas là pour dire il faut fermer les bars. Il faut... Ça, c'est le politique. Hein, c'est les responsables politiques. C'est le gouvernement.
C'est de la décision politique.
C'est de la décision politique. C'est le gouvernement. C'est les maires avec les préfets qui vont discuter de tout ça. Donc moi, je ne suis pas là pour dire il faut fermer les bars ou faire ci et ça. Je suis là pour dire ce qui se passe à l'hôpital pour que les gens comprennent les enjeux. Mais je comprends qu'il y a aussi des enjeux, la vie sociale, la vie économique. Tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Donc il y a un équilibre à trouver qui est extrêmement difficile.
Nous devons protéger nos hôpitaux. C'est ce que disait le ministre de la Santé hier soir. Concrètement, est-ce qu'il faut comprendre qu'ils sont là, ce matin, franchement menacés?
Alors, il a dit à trois reprises, je crois. Il faut protéger deux ou trois reprises. Je l'ai bien relevé, effectivement. Je voudrais juste dire un mot. J'étais il y a un peu moins d'un an à ce micro pour déjà alerter sur les difficultés que rencontrait l'hôpital pour notamment retenir ses professionnels, et les paramédicaux en particulier, mais aussi certains médecins de certaines catégories. Car depuis plusieurs années, on fait des économies. On n'a pas des budgets insuffisants dans les hôpitaux, ce qui fait que l'hôpital est fragilisé.
Alors, il y a eu des engagements, il y a eu un Ségur de la Santé.
Il y a eu tout ça. Et bien, évidemment, quand je disais ça l'année dernière, personne ne savait que le virus commençait à circuler en Chine. Hein. Il y a eu, effectivement, après la première vague, et cet effort considérable que les hôpitaux dans la région parisienne, dans l'est de la France, ont fourni. Effectivement, le président de la République a dit il faut faire un effort. Un effort a été fait sur les salaires, notamment des paramédicaux et des médecins, mais cet effort est insuffisant. Et aujourd'hui, les professionnels attendent encore des mesures pour retrouver des conditions de travail correctes, bien soignées à l'hôpital. Alors, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est un fait. À l'APHP, on a pu recruter dans cet élan, cet enthousiasme de la première vague. On a eu plein de jeunes, des étudiants en santé, des étudiants en école d'infirmiers qui sont venus nous aider et qui ont eu envie d'y rester.
Ils ne sont pas forcément là pour la deuxième vague, c'est ce que vous nous dites?
Disons qu'une partie sont venus, mais ce n'est pas encore suffisant. Et si les conditions sont difficiles, d'autres pourraient partir. Et nous sommes, dès maintenant, alors avant même cette deuxième vague, nous sommes dans une situation où certains lits ne peuvent pas ouvrir faute de personnel encore, à Paris et ailleurs.
C'est important de le souligner. Et parce qu'on a bien compris qu'il y a la circulation du virus, il y a la contagion, il y a les mesures barrières. Mais ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe, c'est le niveau de saturation des hôpitaux. Clairement, l'activité des urgences liée au Covid-19 a doublé en 15 jours chez vous.
Oui, ça augmente. Ça augmente doucement. Ça augmentait très doucement cet été. Ça augmente un peu plus vite depuis quelques jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut pas comparer la première vague. La première vague, c'est arrivé très vite. On a eu comme un tsunami, hein, une déferlante qui est arrivée. Et on a dû, pour reprendre la parabole hydrique, on a vidé la baignoire. C'est-à-dire qu'on a arrêté toute activité programmée, hein, toutes les interventions programmées. On a tout arrêté pendant 2 mois quasiment. Et donc on a pu, grâce à cela, et grâce au renfort qu'on a reçu également de droite
assurer
et de gauche,
sur cette
de la
première
région,
vague.
Des écoles de santé, comme je l'ai dit, on a pu faire face. La baignoire n'a pas débordé. Donc on a pu prendre en charge tout le monde, quelques transferts de patients en province.
Mais aujourd'hui c'est
différent. Aujourd'hui, c'est différent. La baignoire est déjà quasi pleine. C'est-à-dire qu'on a repris l'activité. On a pris des patients qui avaient pris du retard du fait de l'arrêt au printemps. Qu'on a repris, on a eu des cancers qui étaient plus graves que d'habitude, des maladies plus graves parce que les patients avaient attendu. Les patients ne voulaient pas venir non plus à l'hôpital parce qu'à par crainte de se faire contaminer par le Covid. Donc aujourd'hui, il faut rassurer les gens, leur dire qu'on va continuer de prendre en charge le maximum de toutes les les pathologies qu'on prend en charge à l'hôpital. Mais si les patients Covid arrivent, même beaucoup moins nombreux, mais arrivent de plus en plus nombreux, on ne pourra pas faire face à tout.
Moi, j'aimerais comprendre, Rémi Salomon, ce qui a permis cette décision politique. Vous l'avez dit et correctement dit que c'est une décision politique qui a été prise hier, ces fermetures localisées. Parfois, c'est difficile. On pense à Marseille, à la Guadeloupe. Parfois, c'est plus souple pour d'autres métropoles. Mais est-ce que ces décisions sont justifiées par un niveau de saturation des hôpitaux qui est inquiétant ?
On est proche de la saturation. On est proche de la saturation, en effet. On n'y est pas encore en région parisienne. À Marseille, ils sont plus saturés que nous. Hein, plus d'un tiers des lits de réanimation occupés déjà par des patients qui ont le Covid. Et il y a, je vous le dis, toutes les autres pathologies qui occupent les autres lits. Donc on est proche de la saturation. Donc en effet, si on ne fait pas quelque chose de plus pour ralentir la progression du virus, on va arriver à une saturation
complète. C'est quelque chose de plus.
Et donc, il faudra qu'on fasse des choix cornéliens d'arrêter certaines prises en charge de patients non-Covid. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas faire. Donc, on n'est pas très loin. J'ai dit, le virus circule moins vite qu'au mois de mars. Donc, il suffirait de pas grand-chose pour arriver à inverser la tendance.
Et à contenir cette vague d'une certaine manière.
Donc, on parle beaucoup des mesures barrières, à juste titre. Effectivement, le virus... On sait aujourd'hui, plus qu'au mois de mars, que le virus circule aussi dans l'air. C'est-à-dire quand vous êtes dans une pièce fermée, si
ici,
vous baissez
par
le
exemple,
masque...
Je le dis à nos auditeurs, ici, vous êtes masqué, pas
je
moi.
Je suis masqué, et je le fais un peu à titre pédagogique. Si, dans cette pièce...
Non mais je ne vous reproche pas d'être masqué professeur.
Je vous le dis, dans cette pièce, là on n'est que deux, la pièce est vaste, donc il y a peu de risques. Mais si nous étions 5 ou 6 ou 10, il y a peu d'aération, si on baisse le masque pour boire un verre ou pour manger... Le virus circule. Donc il y a là effectivement un problème. Et dans la salle de sport, c'est un peu la même chose. Donc il y a ce problème.
On comprend, la salle de sport, le restaurant. Voilà. Rémi Salomon, tout ça c'est aussi l'aboutissement de ce qu'on a pu apprendre sur la première vague, de ce qu'on a pu mettre en place sur le printemps, l'été. On va reparler avec Nicolas Bétou dans son édito dans un instant. Mais la fameuse politique, le triptyque tester, tracer, isoler, est-ce que ces décisions ne sont pas la marque d'un échec de cette politique ?
Ça, clairement, là, oui. Je pense que là, on a pris du retard. On n'a pas fait correctement. Les gens ne savent pas assez. Quand on est malade, on s'isole. Ça, c'est un message qu'on devrait marteler matin, midi et soir. Quand on est malade, on s'isole. Et quand on est malade, on doit repérer toutes les personnes que l'on a rencontrées dans les jours précédents. Et ils doivent être testés. Donc, c'est effectivement ce triptyque. On n'est pas bon parce que les tests, on a des délais qui sont trop longs et parce qu'on manque de personnel. Soit on fait des applications numériques, mais ça n'a pas marché, Contact Covid. Soit on a des gens qui vont à domicile, qui vont tester, qui vont expliquer. Ben, c'est pas facile de s'isoler pendant plusieurs jours. C'est pas facile. Donc il faut indemniser ceux qui ont un travail.
Je vous entends, je me dis que la promesse tester, au-delà du triptyque...
Mais il ne faut pas tester massivement. Ça, c'était une erreur. Tester massivement, c'est une erreur à partir du moment où ça a engorgé les laboratoires et on a eu des délais. Donc il faut prioriser, le gouvernement l'a compris, mais c'est arrivé un peu tard. Il faut le faire, il n'est pas trop tard. Il faut le faire, tester, tracer, isoler, avoir du monde, du personnel pour le faire, des tests avec des diagnostics rapides, ça va arriver, je l'espère. Et donc tout ça, on peut inverser la tendance. Ça, c'est la bonne nouvelle, malgré tout, que je veux donner aujourd'hui aux Français. On n'est pas loin, il suffirait de pas grand-chose pour inverser la tendance.
Rémi Salomon, d'un mot, et c'est terminé, à l'hôpital, le matériel. On parle tout le temps des lits. Le matériel, ça va en ce moment ?
Alors, le matériel, ça va. On a fait des stocks de médicaments.
Les blouses,
le matériel,
les médicaments.
C'est le personnel qui pose problème, okay. Mais le matériel,
je voulais
ça
vous
va.
Poser la question. Rémi Salomon, le professeur Rémi Salomon, merci beaucoup d'être venu éclairer nos auditeurs. Ils ont suivi le ministre de la Santé hier soir. Ils se posent des questions ce matin et nous étions avec le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. 7h49. À suivre l'édito politique de Nicolas Bétou. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors on s'y attendait. Depuis quelques jours, Olivier Véran a donc annoncé hier soir un durcissement du dispositif de lutte contre le Covid.
Oui, et il ne faut pas se le cacher, ce durcissement est un constat d'échec. Le combat contre le virus tel qu'il avait été mené depuis l'été n'a pas donné de résultat. Au contraire, puisque l'épidémie est repartie. Ballotté entre les prévisions apocalyptiques du Conseil scientifique et le souhait du gouvernement d'alléger le dispositif, les Français y compris les Marseillais, ont choisi, ils n'ont pas voulu prendre conscience de la gravité potentielle de la situation.
Et donc, durcissement, changement de stratégie.
Exactement, on n'en est pas encore revenu au confinement, enfin, pas tout de suite, hein. On n'est même pas dans le déconfinement, on ne pouvait pas faire plus de 100 km hors de son domicile, mais on n'est pas non plus dans cette sorte de liberté bridée qui existait depuis 15 jours. On avait eu la guerre contre le virus, puis l'armistice, et bien nous voilà repartis dans une drôle de guerre.
Pourquoi une drôle de guerre? Vous voulez dire comme en 40 ?
Celle qui suit une défaite, oui, exactement. Parce que le gouvernement n'a plus les moyens de se battre à armes égales avec le virus. Nous avons utilisé une fois l'arme atomique, le confinement. Elle a détruit cette arme des pans entiers de l'économie, fait des centaines de milliers de victimes touchées dans leur emploi et dans leur vie familiale et sociale. Mais cette bombe n'a pas détruit totalement le Covid. Or, c'est impossible de la réactiver une nouvelle fois. Le pays n'y survivrait pas. Voilà donc le gouvernement obligé de mener une guerre asymétrique. Désormais, au lieu du carpet bombing, le tapis de bombe, on choisit la frappe chirurgicale sur une ville, sur un secteur, sur des horaires d'ouverture, sur des types d'événements et pas sur d'autres. Mais rien ne dit que cette fois, ça va marcher.
Pourquoi ?
Eh bien parce que, bien sûr, il manque une donnée essentielle au dispositif, la contrainte. Les Français ont démontré depuis cet été qu'ils ne savaient pas, ou pas tous, regardez Marseille, être suffisamment responsables. L'appel à la responsabilité lancé par Jean Castex il y a 15 jours a fait un flop. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la principale différence entre le discours d'Olivier Véran hier soir et les interventions successives d'Édouard Philippe en avril et mai dernier, c'est que jamais le ministre de la Santé n'a parlé de sanctions, alors que la menace de contravention, de ronde de police, de contrôle était permanente au printemps. Et ce renversement de stratégie, qui me va très bien, moi, vive la liberté et la responsabilité, eh bien, il est le résultat d'une prise de conscience au plus haut niveau de l'État que, 1. Le reconfinement, la coercition suprême, était totalement impossible et que, 2. Il fallait laisser aux gens une partie des libertés fondamentales, celle de circuler, par exemple, ou celle qui, avec l'enfermement, les avait auparavant privés d'une forme absolue d'humanité. Eh bien, de ce point de vue, le maintien des cultes et des enterrements est un signe extrêmement fort. Alors pourvu que cette fois, il y ait moins de désinvolture, moins d'irresponsabilité des Français, y compris bien sûr à Marseille.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito sur Europe 1 tous les matins. Il est 7h54. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. À 8h15, Sonia interviewera François Asselin, président de la Confédération des PME. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, voulait lui donner un petit conseil. Bonjour Monsieur Le Maire.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à Monsieur Bétou. Écoutez, oui, malgré ma mise en quarantaine, j'ai écouté votre station ce matin, à l'instant, Monsieur Bétou. Et donc je me suis dit, tiens, je vais prendre mon téléphone pour donner un petit conseil à François Asselin.
Très bon réflexe.
Qui est président de la Confédération des petites et merdiques entreprises. Des petites et moyennes entreprises. Oui, Monsieur Cabrol, vous souriez, mais excusez-moi. Hein, depuis l'affaire de Bridgestone, je suis remonté contre les entreprises.
Allez-y, Monsieur Le Maire, quel conseil est-ce que vous avez pour François Asselin ?
Ah, écoute, François, si tu m'écoutes, un petit conseil que je te donne en toute amitié. Si tu as un fabricant de pneus dans ta confédération, si jamais il ferme le moindre atelier, tu m'entends ? S'il réduit son carnet de commandes ne serait-ce que d'une roue de secours, je te jure, je te marave perso. Hein ? Oui, j'ai pas pu me faire Bridgestone parce qu'ils sont trop gros, mais s'il y a un des petits déconnes, je te jure, c'est vous qui prenez. Bon, excusez-moi, monsieur Béliard, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. À bon entendeur, salut.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille l'invité politique de la matinale. Sonia Mabrouk reçoit François Asselin, président de la CPME. Merci Nicolas, et à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de Presque. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Alors je sais, vous n'êtes pas forcément sous la pluie, chers amis, mais à la fin de la journée, pratiquement toute la France aura eu son passage pluvieux, parfois très violent, ponctué d'averses, d'orages et de vents extrêmement puissants, puisque à l'intérieur des terres, ces vents atteindront les 80 km/h et sur les côtes, les 100-110, notamment sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche et de la mer du Nord. C'est un temps, comme on ne les aime pas, parce qu'il nous surprend toujours, nous avons toujours sur le coin de la tête une... et la hantise d'un orage un peu violent. Et ces orages seront plutôt présents sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Vallée du Rhône, Côte d'Azur et Corse. Et il y aura de la pluie et des ondées orageuses sur la région parisienne, le Poitou-Charentes, la Champagne-Ardenne, le Nord, la Picardie et la Normandie. Et ce, dans le courant de l'après-midi surtout. Les coups de vent vont s'afficher justement en deuxième partie de journée et les températures sont en baisse quasiment partout, entre 16 et 20 au Nord, 18 à Paris et entre 21 et 26 au Sud, 26 à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h, soyez les bienvenus.
C'est la vie qui s'arrête, c'est encore la vie, alors que nous sommes touchés que par quelques cas. C'est inadmissible. C'est la mort d'un village.
Un village de 2 millions d'habitants, l'agglomération d'Aix-Marseille et ses 92 communes, privées de bars et de restaurants dès samedi. Sidération dans toute la métropole et coup de gueule des élus. La Guadeloupe, l'autre territoire en alerte maximale, son hôpital frise la saturation. À Lille, Toulouse, Nice et Paris, les rassemblements de plus de 1000 personnes bientôt interdits. Que va faire Roland Garros avec sa jauge à 5000 spectateurs? Question en direct à Guy Forget dans ce journal. Au procès des attentats de janvier 2015, après le récit des horreurs, les interrogations aujourd'hui sur les failles des services de renseignement. Et puis...
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.
On se souviendra toujours de son bal perdu. Son nom, c'était Juliette Gréco. On l'entendra, elle qui avait chanté des chansons de tant de grands artistes du XXe siècle.
Fermeture, appel au télétravail, nouvelles restrictions. Comment les PME vont-elles traverser cette nouvelle phase de lutte contre l'épidémie? À 8h15, François Asselin, président de la CPME, au micro de Sonia Mabrouk. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La couleur rouge ne suffisait plus, il en fallait un dégradé. Du plus pâle au rouge sombre, celui de l'alerte maximale pour reprendre la nouvelle appellation des autorités. Conséquence de ce nouvel échelon sanitaire, fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf si un protocole strict est déjà en place, et fermeture totale des bars et des restaurants dès samedi.
Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour François.
Correspondante d'Europe 1 à Marseille, où les annonces du ministre de la Santé faites hier soir depuis Paris sont vécues comme un coup de massue.
Ah oui, grosse colère. Pour résumer le sentiment général, la punition titre à la une la Provence et c'est bien ce qui est ressenti dans ce bar de quartier où je me trouve. Christophe, serveur au New Look.
C'est incompréhensible, incompréhensible. Ils vont tuer beaucoup de commerces. Pourquoi ils nous obligent à fermer des restaurants et laisser ouverts des métros, des tramways, des bus alors qu'il y a beaucoup plus de contacts? On pense qu'on essaie de tuer Marseille.
Et les réactions politiques sont quasi unanimes, parfois très sèches. Véran, ferme-la, dit la maire d'Aix-en-Provence. Le gouvernement tape sur l'économie locale, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est injuste, inadapté, juge le président de la région, Renaud Muselier. Et surtout pas de cette manière, surenchérit la ville de Marseille, sans concertation. Samia Ghali, deuxième adjointe.
À chaque fois que le ministre de la Santé va parler maintenant, il va faire une conférence de presse, on va trembler, en se disant qu'est-ce qu'il va nous mettre sur la tête encore une fois de plus. Et de manière unilatérale, sans même discuter. Les Marseillais sont victimes finalement de décisions politiques que personne ne peut comprendre. À un moment, ça suffit, trop c'est trop.
Car pour la mairie, la situation sanitaire ne justifie pas de telles mesures. Les dépistages massifs et les distributions de masques gratuits par milliers commencent à porter leurs fruits. Incompréhension aussi dans les petites communes où l'on dénonce un quasi-reconfinement. Georges Christiani, président des maires des Bouches-du-Rhône.
C'est la vie qui s'arrête, c'est encore la vie, alors que nous sommes touchés que par quelques cas. De façon sporadique, c'est encore une décision la plus jacobine qui soit. C'est inadmissible. C'est la mort d'un village.
Et des élus qui attendent maintenant des compensations financières de l'État pour que l'économie locale ne sombre pas.
Nathalie Chevance en direct de Marseille pour Europe 1. Alors, les critères pris en compte sont le nombre de nouveaux cas rapportés à la population, ainsi que ce taux d'incidence parmi les personnes âgées et enfin la proportion de patients Covid en réanimation. Ces statistiques font basculer une autre région en zone d'alerte maximale, c'est la Guadeloupe.
On y avait recensé, compté 26 morts depuis le début de l'épidémie. 16 en une semaine à présent. Et à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on voit affluer les malades, Mathieu Bock.
Pour accueillir ces nouveaux malades, les équipes médicales ont dû transformer la cantine de l'hôpital. À la place du self et des tables, des lits médicalisés ont été installés. Le service de réanimation est saturé, explique son chef Marc Valette.
Nous avons reçu au total 94 patients en réanimation depuis un mois, alors que sur la première crise, nous avions reçu 31 patients sur deux mois et demi. Donc en un mois, nous avons reçu trois fois plus de patients que sur la première crise. Et le nombre de patients présents en même temps en réanimation est monté à 28. 8 contre 20 au maximum lors de la première crise.
Sur l'île, le nombre de contaminations explose. Un quart des tests sont positifs, 4 fois plus que la moyenne nationale. Plus de 1000 cas ont été recensés en une semaine contre 3000 depuis le mois de mars. Les équipes sont à bout. L'État a donc envoyé 36 personnels soignants de la réserve sanitaire en renfort, comme Pierrick Tristan, un infirmier venu de Perpignan.
Ils sont presque en burn-out avec le travail qu'ils effectuent et venir les remplacer les soulage énormément. Ça me paraissait évident de venir leur donner un coup de main, aider cette population-là qui en a grand besoin.
Mais ces renforts ne sont pas suffisants. L'armée va donc envoyer des médecins et des infirmiers. Sur place, on espère qu'ils seront au moins une cinquantaine à venir le plus vite possible.
Alors en dessous d'Aix et Marseille et de la Guadeloupe, le deuxième échelon est celui de l'alerte renforcée. 11 métropoles concernées, Lyon, Nice, Toulouse, Lille ou encore Paris. Les bars devront fermer au plus tard à 22h à partir de lundi, horaire à affiner par le préfet. Fermeture totale, par ailleurs, des salles de sport et des gymnases et limitation des grands événements à 1000 personnes.
Bonjour Guy Forget.
Bonjour.
Directeur du tournoi de tennis de Roland-Garros en direct avec nous ce matin. Ce que l'on vient d'entendre, ça vous force à réduire le nombre de spectateurs pour la troisième fois de suite ou est-ce qu'on va directement au huis clos ?
Écoutez, vous savez, on travaille depuis maintenant de nombreuses semaines, j'ai même depuis plusieurs mois, en responsabilité avec les services de l'État, justement pour réduire notre jauge. Nous étions à 20 000 places, puis nous sommes passés à 11 500, et puis finalement, on était arrivé à une jauge de 5 000 places. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est de nous rendre compte qu'on est probablement l'événement sportif aujourd'hui le plus populaire et à la portée internationale probablement la plus importante dans le monde. Et qu'aujourd'hui, nous sommes sur un site aujourd'hui de 12 hectares, donc c'est pas carrément 15 terrains de football, et on doit pouvoir s'adapter aujourd'hui et proposer à une minorité de personnes de venir à Roland-Garros. Nous avons déjà plus de 700 joueurs qui sont arrivés, les qualifications ont commencé. Et aujourd'hui, d'être dans ce flou, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant pour nous.
Donc vous ne savez pas encore si on réduit encore ou si on reste à 5000 ?
Bah écoutez, aujourd'hui, nous attendons. Nous avons toujours travaillé en concertation avec les services de l'État et aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. Donc, on a reçu.
Vous demandez à pouvoir rester à 5000, Guy Forget.
Mais écoutez, vous imaginez aujourd'hui qu'on est quand même sur un site qui est immense. Nous sommes dans plein air. C'est beaucoup plus sûr d'être à Roland-Garros avec un masque en regardant des matchs de sport sur 12 hectares que de prendre le métro, d'aller au supermarché ou d'aller dans un amphithéâtre à la faculté. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir s'adapter et proposer à une minorité de personnes de venir à Roland-Garros et de faire vivre ce tournoi qui doit être notre fierté avant tout.
Guy Forget en direct ce matin, directeur du tournoi de Roland-Garros dont Europe 1 est partenaire, je le rappelle. Merci Guy Forget d'avoir été ce matin l'invité du journal de 8h.
Enfin, le dernier des trois nouveaux échelons s'appelle la zone d'alerte, 69 départements concernés. Interdiction des rassemblements privés de plus de 30 personnes à partir de lundi, dont les fêtes de mariage. Sur Europe 1, il y a quelques minutes, le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale des hôpitaux de Paris, le disait. Il suffirait d'un petit effort pour éviter la saturation des hôpitaux. Il était votre invité, Mathieu, tout à l'heure à 7h40.
On vous en parlait hier. Le doublement du congé paternité. Ce sera 28 jours dès l'été prochain.
4 semaines donc, mais certaines entreprises vont déjà beaucoup plus loin aujourd'hui. Carole Ferry les a contactées.
Chez L'Oréal, le délai est fixé à 6 semaines. En un an et demi, 200 papas en ont profité. Parmi eux, Paul, 36 ans. Le dispositif n'existait pas à la naissance de son premier fils. Pour le second, il a beaucoup plus vite créé un lien avec son bébé.
Avant le congé, je ne savais pas vraiment identifier le sens de ses pleurs. C'est-à-dire que quand il pleurait, il fallait que je me retourne vers ma femme pour savoir s'il avait faim, s'il avait mal au ventre, s'il était fatigué. Après 3 semaines non-stop avec lui, je crois que j'avais un peu plus de facilité pour décrypter le sens de ses pleurs.
Aviva a été l'une des premières entreprises en France à proposer 10 semaines, c'était il y a 3 ans. Au départ, 81% des pères prenaient ce congé, désormais ils sont 95%. Les mentalités ont clairement évolué selon la directrice du bien-être au travail, Sylvie Chartier.
Ça devient naturel dans l'entreprise. Ça va choquer personne de se dire bah, je vais m'absenter pour être présent et m'occuper de mon enfant, participer à son intégration à la crèche et que c'est plus un sujet féminin, c'est un sujet de parents.
Facebook France propose même jusqu'à 4 mois, mais le record revient à Netflix. Les 60 salariés français peuvent prendre jusqu'à 1 an de congé parental rémunéré.
L'actualité à l'étranger, en Algérie, où l'on suit le sort du journaliste Khaled Drareni, ancien correspondant d'Europe 1, condamné en appel à 2 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Ses avocats annoncent un pourvoi en cassation.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant après l'émotion, le questionnement à la cour d'assises spéciale de Paris sur ce qui a permis aux terroristes de passer à l'action en janvier 2015 hors des radars des services de renseignement.
Et puis hommage à celle qui est déjà au panthéon de la chanson française, selon Emmanuel Macron. On entendra Juliette Gréco.
À tout tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal. François Geffrier.
Une nouvelle phase du procès des attentats de janvier 2015. Des enquêteurs vont venir aujourd'hui expliquer le parcours des trois terroristes et tous les signes qui ont alerté les services de renseignement. Chloé Triomphe, ces services qui avaient pourtant cessé de surveiller les frères Kouachi.
Oui, fin 2013 pour l'un des frères Kouachi et à l'été 2014 pour le second, les écoutes téléphoniques ont pris fin. Mi-2014, c'est à peine 6 mois avant les attentats. Pour justifier ce que certains considéraient déjà comme un raté, la place Beauvau avait fait savoir à l'époque que rien ne laissait penser qu'il préparait un attentat, rien qui justifiait en tout cas une surveillance physique. Et pourtant, les frères Kouachi avaient quelques années plus tôt fait figure de cible prioritaire des services, notamment pour leur lien étroit avec tout ce que le djihadisme francophone compte de plus dangereux. Jamel Begal, vétéran du GIA algérien, proche d'Al-Qaïda, mais aussi Peter Sherif, devenu depuis un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Quant à Hamedi Coulibaly, dont la connexion avait pourtant été établie avec les frères Kouachi et leur environnement, il avait tout simplement été classé dans la catégorie des délinquants de droit commun.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et puis ce matin, nous voulions nous bercer de quelques phrases et de quelques notes.
Ne vous déplaise en dansant là. Javanaise.
Juliette Gréco qui s'est éteinte hier à 93 ans et cette Javanaise écrite et composée pour elle par Serge Gainsbourg, une chanson à l'image de tous ses titres dont elle fut l'interprète des chansons offertes par d'immenses artistes de son temps comme elle le racontait au micro de Wendy Bouchard.
Dans chaque chanson il y a un morceau de moi, ou grand ou petit, je suis la servante de mes seigneurs. Et mes seigneurs, ce sont les écrivains, ce sont les musiciens, ce sont les poètes. Ce sont des gens pour lesquels j'ai de l'amour, de l'admiration. Je vis dans la ferveur et dans l'amour de ce que je fais et de ces gens-là.
Si tu t'imagines.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines.
Un poème de Raymond Queneau qui avait été remis à Juliette Gréco par Jean-Paul Sartre et mis en musique par Joseph Cosma. Que des grands noms, je vous l'avais dit.
Saison des amours.
Merci François Geffrier. Quel bel hommage à Juliette Gréco. Merci François Geffrier. 8h13 sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un coup de massue, une punition. Les commerçants, artisans, entrepreneurs concernés par les nouvelles mesures restrictives sont au bord de l'abîme. Drame économique et humain. C'est un cri de désarroi, mais aussi de colère au micro d'Europe 1 avec François Asselin qui représente les PME.
A tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'invité d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.
Bienvenue à vous et bonjour François Asselin.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Fin des grands événements, défaite, un impact conséquent sur les bars, restaurants fermés à Marseille, en Guadeloupe. Est-ce que c'est une punition d'une partie de l'économie ?
En tout cas, c'est un sacré coup de massue hein, aujourd'hui et ce matin, tout particulièrement, je pense à nos amis marseillais, Aix-en-Provence, nos amis de Guadeloupe aussi, hein, qui sont à la tête de petites entreprises, parfois très petites entreprises. Et aujourd'hui, le sol se dérobe sous leurs pieds parce que quand on ferme son activité, vous n'avez plus de recettes, vous n'avez plus de revenus parce que ce sont des statuts d'indépendants, donc vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage. Donc on peut les comprendre qu'après cette période très compliquée que nous avions déjà traversé avec le confinement, et bien là, ils se disent, mais quel sera mon avenir, mais immédiat. Donc, je pense très fort à eux et on va faire en sorte de continuer à les soutenir, à les accompagner.
On va en parler, eux parlent, François Asselin, de punition, ces artisans, ces commerçants, ces entrepreneurs. Est-ce que vous, en tant qu'acteur économique, en tant qu'entrepreneur, en tant que représentant de notre tissu de PME, vous les comprenez, ces mesures ?
Vous savez, regardez ce que nous vivons tous en tant que Français. On entend le corps médical nous expliquer que tout cela est bien évidemment dangereux, etc. On voit que les hôpitaux commencent à se remplir, en tout cas les salles de réanimation. Et lorsqu'on nous demande de faire attention et de prendre des mesures sanitaires, nous l'avons fait en responsabilité dans les entreprises. D'ailleurs, je veux le souligner, les entreprises sont un corps social extrêmement responsable dans notre pays. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un protocole s'applique à nous, nous l'avons mis en place. Parce que si nous ne le mettons pas en place et qu'un cluster se développe dans une entreprise, c'est la fermeture de l'entreprise. Donc autant vous dire que nous avons pris conscience depuis longtemps, c'est une vraie colonne vertébrale, le tissu des entreprises de notre pays. Donc il faut continuer à les soutenir. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sortirons de cette période, eh bien, c'est sur ces profils de femmes et d'hommes qu'ont cette capacité, eh bien, à prendre des risques pour se mettre à leur compte.
Quand vous dites continuer à les soutenir, c'est-à-dire très concrètement, tout à l'heure, vous êtes en réunion à distance avec Bruno Le Maire, vous dites que décaler les charges, ça ne sera pas suffisant, ce n'est pas possible.
Aujourd'hui, où nous en sommes, vous savez, sur les métiers qui sont concernés, les hôteliers, les restaurateurs, les bars, et puis toute la filière amont, vous avez leurs fournisseurs, eh bien, il faut tout simplement annuler leurs charges. Ils ne pourront pas rembourser. Ou alors, ça sera direction tribunal de commerce. Et là, bah, de toute façon, ils ne paieront pas. Donc, tout le monde...
Mesure immédiate, demander l'annulation des charges.
Bien évidemment, pour au moins ces professions. On ne peut pas s'en sortir autrement. Vous savez, ils ont des loyers à rembourser. Et parfois, les bailleurs sont les anciens propriétaires de ces commerces. Pour qui c'est leur retraite? Donc, vous imaginez un petit peu les conséquences sociales, humaines, à travers tout cela.
Mais parlons-en, François Asselin, parce que, à raison, on parle beaucoup sur Europe 1 et ailleurs des drames sociaux comme à Bridgestone, mais très peu de ces entrepreneurs qui vont tout perdre. Est-ce qu'on peut braquer la lumière sur leur désespoir ce matin? Racontez-nous.
Bon, nous ne sommes pas des caliméros, hein. On ne va pas, entre guillemets, battre notre coulpe tous les matins, mais vous avez trois choses qui font qu'un entrepreneur dort comme un bébé. C'est quand il y a une bonne ambiance dans son entreprise, lorsque son carnet de commandes se remplit et que la trésorerie est positive. Aujourd'hui, seule l'ambiance reste. C'est déjà ça, parce qu'avec nos salariés, évidemment, nous vivons ensemble au milieu de nos entreprises et nous faisons en sorte de nous en sortir. Par contre, si nous n'avons pas de perspective d'activité et si nous ne pouvons pas payer parce que le banquier, tout simplement, ferme les robinets, là, vous êtes extrêmement angoissé. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à soutenir, bien sûr, les PME, les TPE, et surtout à investir pour que ça aille irriguer les TPE, les PME. Je rappelle que c'est 98% du nombre d'entreprises dans notre pays. Et quand je vois le plan de relance qui est en train un petit peu de... Il y a comme de la friture sur la ligne. Il faut absolument jouer la confiance avec les territoires.
Mais
sinon,
attendez, on va en parler, parce que de la confiance,
c'est
pour
pas à partir de Bercy qu'on va s'adresser à 1,8 million d'entreprises qui ont au moins un salarié dans notre pays.
Ces entrepreneurs, ces artisans... S'ils ne peuvent pas payer, on va aller chercher sur quoi? Sur leurs biens personnels? C'est ça qu'ils mettent sur la table?
Oui, saviez-vous, malheureusement, que vous savez, lorsque un entrepreneur dépose le bilan, s'il a un statut d'indépendant, de travailleur non salarié, ce qu'on appelle les TNS, les dettes, leurs dettes sociales sont des dettes personnel. C'est-à-dire que vous avez d'abord un drame économique, vous déposez le bilan de votre entreprise, vous faites face à vos dettes, et puis quelques mois plus tard, parfois plus d'un an, vous avez la patrouille qui vient vous rechercher pour que vous remboursiez vos dettes sociales. C'est comme si on allait demander à des salariés de rembourser les charges sociales que l'entreprise n'a pas pu payer. C'est catastrophique. Donc ce que nous demandons, nous, à la CPME, c'est de faire en sorte que les dettes sociales des indépendants soient considérées comme des dettes de la personne morale, et non pas de la personne physique. Il faut protéger ces femmes et ces hommes.
Parce qu'ils
courage.
Ne peuvent pas, elles ne peuvent pas payer aujourd'hui, d'ailleurs le disent. Hein. Ils nous disent stop aux charges sociales, on ne peut pas tout simplement payer.
Mais elles ne peuvent pas payer, que voulez-vous? Quand vous additionnez tout ce que vous avez décalé, charges sociales, charges fiscales, vos loyers, les remboursements d'emprunt, parce que parfois vous avez dû emprunter pour acheter votre fonds de commerce,
très
par
sincèrement,
exemple.
Très sincèrement, monsieur Asselin, il y en a qui vont pouvoir rembourser. Hein, tous ces prêts, notamment ces prêts garantis par l'emploi, très franchement.
Mais non, écoutez, de toute façon, on le savait en matière économique.
Disons les choses très sincèrement.
Il faut dire les choses très sincèrement. À partir du 7 octobre prochain, vous allez au niveau des tribunaux de commerce retrouver le fonctionnement classique. C'est-à-dire que vous devrez déclarer vos cessations de paiement et là, le tribunal de commerce vous demandera de prendre des décisions, donc de déposer le bilan. C'est-à-dire que vous allez voir la sinistralité des entreprises augmenter en flèche à partir du 7 octobre. Et évidemment, les mesures annoncées hier soir ne vont pas aider à cette situation. Mais c'est ainsi, si vous voulez. C'est dramatique, certes, mais il faut regarder froidement ces choses-là et surtout réagir et se remonter les manches.
Se remonter les manches, les comprendre. Et je vais vous dire, j'insiste sur ces cas en particulier parce que moi en particulier, j'ai mon salaire à la fin du mois. Ces gens-là, ils n'ont pas cela aujourd'hui.
Ils n'ont pas cela.
Voilà pourquoi ces situations sont dramatiques humainement.
Nous demandons à ce que le fonds de solidarité avec les deux niveaux, vous aviez un premier niveau qui était plafonné à 1 500 €, un deuxième niveau qui pouvait aller jusqu'à 10 000 €. Il faut absolument que le deuxième niveau du fonds de solidarité fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Il fonctionne mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge administrative telle pour accéder à ce fonds de solidarité que ça ne fonctionne pas. Donc on demande immédiatement de la simplification. On nous a sollicité pour demander des mesures de simplification. Eh bien voilà une. Débloquons le fonds de solidarité pour que, bien évidemment, ces indépendants puissent avoir au moins une perspective de pouvoir se nourrir à la fin du mois.
Une indication sur les chiffres, François Asselin, vous qui représentez ces PME, combien d'entreprises de ces tailles, de ces PME, risquent de déposer le bilan au 31 décembre? On parle là aussi d'une hémorragie et qui passe sous les radars de l'actualité.
Oui, parce que dès que vous passez en dessous des 11 salariés, quelque part, vous n'êtes pas visible en matière macroéconomique. Et pourtant, c'est un salarié, deux salariés par-ci, par-là, qui risquent de perdre leurs emplois, leur emploi, et puis c'est le commerçant lui-même ou l'artisan ans, ou l'indépendant qui, lui, perd son entreprise et donc son propre emploi. On estime aujourd'hui, si vous voulez, que dans certains secteurs, par exemple, ce qu'on appelle le HCR, hôtellerie, café, restaurant, hein, il peut y avoir une sinistralité de l'ordre de 20%. C'est catastrophique, c'est colossal. Donc là, avec les nouvelles mesures, vous savez, je ne sais pas vers où on va. En tout cas, on peut s'en sortir si on continue de soutenir ces activités, ces filières, et si en même temps, on investit. Mais maintenant, il faut être extrêmement actif sur le volet investissement et soutien.
Et ça passe par le plan de relance, vous en parlez tout à l'heure, mais on a envie de vous dire ce matin, François Asselin, mais quel plan de relance? Est-ce que vous en voyez la couleur? Est-ce que vous en comprenez la méthode d'application?
On peut avoir les meilleures idées du monde, si l'intendance ne suit pas, vos idées, elles ne valent rien. Or, il faut, et je pense qu'on peut avoir exactement la même intelligence collective qu'a eu le gouvernement pendant toute la période de confinement par rapport à la période qui est devant nous, la période de relance. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, il faut avoir le courage immédiatement d'adapter le dispositif.
C'est le cas ? Ça ne fonctionne
bien,
pas ?
Pour l'instant, on ne sait pas. Pourquoi ? Parce que vous avez des grandes mesures annoncées,
grave.
Ce fameux...
100 milliards,
bien
et
sûr.
Il nous a dit matin, midi et soir, regardez
ça,
la conséquence de ce plan de relance,
ça,
que vous nous dites.
Oui. Que je dis, il faut absolument jouer la confiance avec les territoires. Il faut que...
Est-ce qu'elle est là, la confiance, François Asselin? Regardez les présidents de région, je pense notamment à Marseille, comment il a réagi en apprenant quelques minutes avant ce qu'allait se passer, notamment à Marseille. Est-ce qu'elle est là, la confiance?
L'intérêt général est supérieur à toutes les bisbilles qu'il peut y avoir entre différents élus. Alors effectivement, on peut être un petit peu inquiet parce que dans quelques mois, il va y avoir les élections au niveau des régions.
Ah.
C'est toujours les périodes électorales sont toujours des périodes de tension lorsqu'il y a des enjeux de pouvoir. Ce que nous disons, c'est qu'il faut faire fi de tout cela et surtout penser aux entreprises, aux entrepreneurs. Si l'économie sort en lambeaux de cette période, l'économie française, jamais le pays ne pourra se redresser.
Alors,
et ce sera l'appauvrissement de toute la population. Mm-hmm. Donc ce qu'il faut, c'est dès maintenant donner une visibilité, une méthode claire sur la dévolution de ce plan de relance. Il faut que le gouvernement descende dans les territoires et avec l'aide et l'appui des régions...
Mais à qui il faut le confier? Donc au président de région, aux régions, c'est ça? Vous nous dites ce matin que c'est, même si c'est politiquement sensible, on l'a compris avec les régionales, c'est économiquement, et j'allais dire même humainement indispensable.
Oui, vous savez, ce plan de relance, il a été bien construit, hein, très sincèrement. Mais maintenant, l'intendance, il faut absolument la mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, il fut un moment, du moment de Arnaud Montebourg, il y avait eu, j'aime pas trop ce terme, mais les commissaires au redressement productif. Eh bien, il faut qu'il y ait des représentants de l'État, qu'ils soient en territoire, avec l'appui et la confiance des régions.
C'est pas les fameux sous-préfets, là, qui allaient être mis en place?
Mais non, il faut
abandonner, eux.
Oui, je sais pas comment on les appellera, mais il faut que ce soit des gens qui soient efficaces. Il faut des patrons de territoire qui s'appuient sur les autres patrons politiques des territoires qui sont les régions, avec tout ce qu'on appelle les EPCI, c'est-à-dire les agglomérations de communes, là où il y a des bassins d'emploi et des bassins économiques. Et là, oui, on peut faire du bon boulot avec les acteurs patronaux comme la CPME autour de la table et les chambres consulaires. Je peux vous assurer qu'on peut être efficace. On a su le faire pendant le confinement, je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas le refaire au moment de la relance.
On entend votre détermination. Vous avez tout à l'heure rendez-vous avec Bruno Le Maire. C'est lui le vrai patron, c'est lui votre interlocuteur. Est-ce qu'il est au rendez-vous?
Bruno Le Maire, bien sûr, c'est Bruno Le Maire, notre interlocuteur. Et on a eu, vous savez, pendant toute la période de confinement, il avait mis en place une task force. Tous les jours, nous avions un rendez-vous téléphonique. Je peux vous dire qu'on a été extrêmement efficaces.
Mais là, vous lui dites, monsieur Le Maire, attention, maintenant, l'urgence est encore là, avec ces nouvelles mesures.
Exactement, mais vous savez, il en est parfaitement conscient. Maintenant, vous savez, hein, tout ce qui est en jeu de pouvoir est relativement complexe. Et bien, comme je vous dis, il faut que l'intérêt général prime sur tout ça.
On va conclure, François Asselin, peut-être, j'allais dire, nous éloigner un petit peu de ces considérations économiques et peut-être nous parler d'un cas en particulier que vous avez en tête, parce que vous avez souvent ces artisans, commerçants, entrepreneurs en ligne, qui vous racontent leur situation, peut-être un dernier cas récemment.
Vous savez, moi je connais une belle entreprise, hein, une très très belle entreprise, une belle distillerie c'est un entrepreneur qui a repris cette entreprise depuis 20 ans, il a tout dépoussiéré, il exporte 75% de son activité, ses clients, ce sont les hôteliers, les bars, les restaurateurs. Aujourd'hui, cette belle entreprise, eh bien, est très fragilisée et pourtant son modèle économique est magnifique et extrêmement viable. Eh bien, je pense beaucoup à lui et à tous ceux qui souffrent aujourd'hui de cette situation que nous subissons.
Notre tissu économique, PME, c'est lui qui participera notamment à la relance et on espère que cette relance...
De qui on aura besoin en première ligne, de ces femmes et de ces hommes qui ont cette belle capacité d'entreprendre.
Et c'est un vaste défi. Merci François Asselin d'avoir été notre invité. Belle journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info, Hélène Zélani, la météo avec Laurent Cabrol avant de retrouver le docteur Jimmy Mohamed. Notre santé, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
On est proche de la saturation dans les hôpitaux. Si on ne fait pas quelque chose de plus pour ralentir la progression du virus, on va arriver à une saturation complète. Voilà ce que déclarait ce matin sur Europe 1 le professeur Rémi Salomon, représentant des médecins de la PHP. Olivier Véran, ministre de la Santé, a donc annoncé un tour de vis hier soir pour freiner la propagation du Covid. Dans l'agglomération de Marseille et en Guadeloupe, bars et restaurants devront fermer totalement dès samedi. Fermeture à 22h au plus tard à partir de lundi dans 11 autres métropoles en alerte renforcée, notamment à Paris. Des mesures hypocrites pour Hubert Jean. Il est le président départemental de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Laissez croire aux citoyens que c'est chez nous qu'on ramasse la mort, c'est purement pas entendable pour moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les gens vont plus venir et puis ils vont déplacer le problème d'un endroit où il y a des protocoles, chez nous, dans des endroits où il n'y a pas de protocoles. Donc ça va être la fête à neuneux et il va se passer des choses et ça va faire compliquer le problème. Et en même temps, vous achevez des entreprises qui n'avaient pas besoin. Ceux qui étaient hyper fragiles, aujourd'hui, ben, ça va les achever. Ouais. C'est terrible ça.
Des propos recueillis par Élise Dangean, une concertation est prévue avec les préfets. Les salles de sport et les gymnases doivent également fermer pour 2 semaines dans les zones d'alerte renforcées. Les grands événements sont limités à 1000 personnes. Quid de Roland-Garros? Guy Forget, directeur du tournoi, expliquait sur Europe 1 ce matin pourquoi il souhaitait rester sur la jauge de 5000 spectateurs. Pour l'instant, il n'a aucune nouvelle des autorités. La lutte contre les violences conjugales, c'est demain que sera lancé le bracelet anti-rapprochement. Ce dispositif réclamé depuis des années, permet de géolocaliser les conjoints violents et de déclencher une alerte s'ils approchent leurs victimes. Le décret est publié ce matin au journal officiel. 800 000 conducteurs rouleraient sans assurance, mais les dégâts qu'ils provoquent sont de plus en plus graves. Selon les nouveaux chiffres du fonds de garantie que vous révèle Europe 1 ce matin, en 6 ans, le nombre de leurs victimes a progressé de près de 7%. Ce matin d'ailleurs, le fonds de garantie lance une campagne avec ce slogan « En conduisant sans assurance, on peut ruiner son existence ». L'Union européenne refuse de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président biélorusse. Il a prêté serment hier en catimini pour un 6e mandat. Les États-Unis avaient déjà annoncé ne pas le reconnaître comme président légitimement élu. Et puis, on vous rappelle la disparition de Juliette Gréco à 93 ans. Elle avait chanté Prévert, Boris Vian, Léo Ferré ou Serge Gainsbourg. Le dernier à lui avoir écrit une chanson, c'était Miossec en 2015.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Merci Hélène Zélani. L'hommage à Juliette Gréco, vous entendez du Juliette Gréco depuis ce matin tôt. Et on va continuer sur Europe 1 bien sûr. 8h34, l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Et sur le ciel de Paris, comme sur tous les autres cieux, nous aurons un temps extrêmement agité aujourd'hui. Je vous ne dirai pas de prendre le PPO, le parapluie par obligation, parce que avec le vent qui fait, vous serez vite élitreillé et on va vous envoyer au ciel. Mais le parapluie sera quand même nécessaire dans la mesure où toutes les régions de France seront dans l'après-midi, soumise à des orages, à du vent et de la grêle aussi. Attention, les vents vont souffler autour de 100 km/h sur les côtes atlantiques, 110 km/h sur les côtes de la Manche. Et demain, ça sera encore plus fort, mais cette fois sur les côtes méditerranéennes. J'aurais voulu dire que les secteurs les plus concernés par les orages cet après-midi, l'Alsace, la Franche-Comté, seront aussi la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse. Un temps un peu plus clément sur Paris, mais il y aura aussi des averses orageuses comme hier. Pays de la Loire, Champagne, Ardennes, Nord, Picardie, Normandie. Itou, des averses orageuses. Et puis dans les autres régions, bien, s'il ne pleut pas, vous aurez vraiment eu de la chance. Les températures entre 16 et 19 degrés sur la moitié nord, 18 à Paris, et entre 21 et 26 sur la moitié sud, 22 à Colmar et 26, tiens, à Bastia.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Tiens, Bastia, la Corse, notre planète avec Fanny Agostini, ça va nous changer les idées ce matin. Vous allez découvrir ce petit escargot corse menacé de disparition. Mais d'abord, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. La deuxième vague occulte un certain nombre de pathologies. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les matins, le docteur Jimmy Mohamed. La situation sanitaire se dégrade, comme l'a annoncé hier Olivier Véran. Je voudrais que vous écoutiez ce petit extrait de la conférence de presse du ministre de la Santé.
Nous ne pouvons pas nous permettre de déprogrammer massivement l'activité chirurgicale réglée. Parce qu'il y a d'autres malades que les malades qui ont le coronavirus. Nous devons protéger nos hôpitaux, nous devons protéger nos services de réanimation. Nous devons protéger les Français.
C'était l'enjeu de cet exercice aussi de pédagogie, au-delà des annonces, des restrictions. Jimmy, ce que vous nous dites, c'est que cette deuxième vague, elle ne touchera pas seulement l'hôpital. Qui d'autre sera touché ?
Eh bien, c'est tout le reste du système de santé qui va être impacté. Je vais vous parler d'une étude parue dans le Lancet en Angleterre sur la période du mois de mars en médecine de ville chez le médecin généraliste. Eh bien, ils se sont rendus compte que pour le mois de mars, ils ont eu une baisse de 50% de diagnostics de maladies cardiovasculaires, de maladies psychiatriques, moins de diagnostics de diabète de type 2, moins de premières prescriptions de traitement, ce qui veut donc dire que les patients renoncent aux soins lorsqu'il y a le coronavirus. Et on l'avait déjà aperçu avec la baisse de la vaccination, la baisse du dépistage de certains cancers. Et puis, pensez aussi aux femmes enceintes qui, lors de leur grossesse et de l'accouchement, ont dû souvent se séparer de leur mari. Donc, le coronavirus aura certes un impact sur l'hôpital, mais sur tout notre système de santé. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, sur l'école. L'école finira par fermer si l'épidémie est incontrôlable. Et pour certains enfants, alors peut-être que ça ne nous concerne pas, que nous faisons partie des privilégiés, mais pour certains, l'enfant est leur seule façon d'avoir une vie normale et peut-être même parfois d'avoir un repas équilibré. Donc il va falloir faire quelque chose car la situation se dégrade.
La situation se dégrade et vous l'entendez autour de vous, chez vos amis, dans les écoles, les cantines, il y a des situations compliquées. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jimmy, pour limiter la circulation du virus ?
Eh bien, il y a 15 jours, je vous disais qu'il fallait siffler la fin de la récréation. Je pense qu'il va falloir vraiment se réveiller. En ce qui concerne nos amis marseillais, ce n'est pas de la persécution. Ce qui leur arrive, c'est vraiment pour les protéger. Et il faut leur dire que ce n'est pas la pensée magique qui va faire que le virus va disparaître. Ce n'est pas le professeur Raoult ni même la chloroquine qui va les sauver. Ce sont le changement dans leur comportement. Il faut porter un masque. C'est la seule façon d'infléchir la courbe et d'éviter un confinement. Car si on est très honnête, Marseille aurait très certainement dû être confinée, donc avec des mesures bien plus sévères que celles annoncées par le ministre. Concrètement, il va falloir limiter...
Pardonnez-moi, je vous coupe. On a eu des annonces difficiles, d'ailleurs, pour les Marseillais, difficilement reçues, y compris par les élus marseillais. On peut questionner même leur discours. Mais ce que vous dites, c'est que Marseille aurait dû être confinée.
Très certainement. Il faut faire attention aussi aux irresponsables élus qui vont contester les décisions des gouvernements, du ministre de la Santé, qui a expliqué très clairement les enjeux et la situation risque de déborder, voire d'éclater d'ici 15 jours à 3 semaines. Pour de vrai, c'est vrai qu'on a annoncé l'apocalypse tous les 15 jours, mais là, pour le coup, c'est réel. Enfin, limiter vos interactions sociales, ça ne veut pas dire ne pas aller voir vos personnes âgées, vos proches. Allez les voir, mais avec un masque. L'amour, la chaleur humaine n'est pas bloquée par un masque. C'est la seule chose que le masque va bloquer, c'est le virus. Donc vous pouvez prendre soin les uns des autres, vous pouvez limiter cette deuxième vague en portant un masque. Et vraiment, il va falloir se réveiller et changer nos comportements pour que le mois d'octobre ne ressemble pas au mois de mars.
Mais c'était aussi le message du ministre de la Santé hier soir. Moins organiser de dîner, moins voir d'amis. C'est la situation qui le veut. Il va peut-être falloir s'habituer aussi. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 que vous retrouvez tous les jours aussi, de 15h à 16h avec Mélanie Gomez pour son rendez-vous. Il est 8h40. Notre planète, bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu.
Tout autre chose, je l'ai dit, mais ce matin, ça va faire du bien. Ça va nous changer les idées. Quoique, vous alertez aussi, Fanny, ce serait la fin des escargots ?
Oui, pardonnez-moi d'être autant décalé avec l'actualité, mais ça fait partie aussi de l'actualité un petit peu plus confidentielle. Effectivement, il y a une espèce d'escargot en particulier dont il me semble important ce matin de rendre hommage. Je vous annonce effectivement que les derniers jours d'un petit escargot corse sont comptés. Le Tirrenaria serratina, endémique sur l'île de Beauté, est en effet en situation critique d'extinction, inscrit en rouge vif sur la liste établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Mais qu'est-ce qui lui arrive à cet escargot ?
Alors pour une fois, je ne vais pas vous parler du changement climatique ni de la pollution. Cet escargot de 2,5 cm de diamètre a pour pire ennemi le tourisme et les infrastructures qu'il a fallu mettre en place pour accueillir toujours plus de monde. Son aire de répartition s'est mis à rapetisser à cause de la déviation de cours d'eau ou de construction. Et on trouve les derniers individus actuellement sur un espace de quelques hectares et manque de bol pour ces escargots, pile sur le sentier qui mène les vacanciers à la plage. Le coup de grâce leur est porté donc par des centaines de tongs qui fracassent leurs coquilles sans vergogne, enfin en tout cas sans le savoir.
Un exemple parmi d'autres qui nous rappelle que les espèces menacées en France sont de plus en plus nombreuses.
Et c'est vraiment là où je voulais en venir. Pour vous rappeler les chiffres, à ce jour, 833 espèces sont menacées en France métropolitaine, 528 issues du monde végétal et 305 pour ce qui est de la faune. Parmi ces animaux les plus touchés, il y a les oiseaux dont on parle très très souvent dans les médias, mais ce que l'on sait moins, c'est que la catégorie qui se trouve davantage sur la sellette, ceux pour qui les prochaines années seront sûrement les dernières, ce sont les crustacés d'eau douce comme l'anguille ou certaines écrevisses comme l'écrevisse à pattes blanches et puis bien sûr les mollusques comme notre petit gastéropode corse. les invertébrés doivent aussi susciter notre intérêt, d'où l'importance de faire de la pédagogie. La biodiversité qui décline, ce n'est pas simplement les espèces emblématiques comme le rhinocéros blanc, le tigre du Bengale ou l'ours polaire. Certaines espèces disparaissent de façon beaucoup plus confidentielle et pourtant, elles sont bien plus proches de nous.
C'est dit. Merci Fanny Agostini, notre planète sur Europe 1, 8h42.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
9h moins le quart sur Europe 1, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard tout de suite pour les titres de l'actu.
Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, l'actualité c'est bien sûr ces nouvelles restrictions pour lutter contre la Covid-19. Dans les zones en alerte maximale, fermeture donc des bars, des restaurants, des salles de sport. Si on veut boire le coup ou faire un foot désormais, il va falloir habiter, vous l'avez compris, dans le Limousin, la Creuse ou les Cévennes. Bref, le seul moyen de lutter contre la Covid, visiblement, c'est de déprimer. Donc, on va tous devoir vivre sobre dans des bleds perdus au fond des bois. C'est une catastrophe. On va tous finalement en réaliser autour de cette table à la rédac, on va tous devenir des Fanny Agostini. À compter les escargots et faire du compost.
Why not?
Tu parles d'une vie, Julie. En tout cas, voilà, fermeture. Allez, sérieusement, fermeture des bars, des restaurants dans le sud de la France. Les supporters de foot vont donc découvrir les matchs de l'OM sobres. Ça va être rude. Ça va être rude. Ils vont tomber de haut. Courage, courage, amis marseillais. Courage, les gars. Et puis l'autre info. L'autre info. C'est le congé paternité. C'est une vraie révolution dans notre pays, le congé paternité, qui va passer officiellement de 14 à 28 jours.
À 28 jours,
bonjour. Bonjour à tous, c'est Dominique le romantique. Dites-moi, j'écoute votre radio depuis ce matin, de façon attentive, et effectivement, j'ai eu cette nouvelle 28 jours. Les jours de congé en plus, ma question est la suivante, c'est rétroactif? Non, parce que j'ai fait les comptes avec les enfants que j'ai fait durant ma longue carrière. J'ai droit, d'après mes calculs, à... Attendez, je reprends ma petite feuille. À 7 ans et demi d'indemnité. Comment ça se passe? Faut remplir un formulaire CERFA?
Non, monsieur Strauss-Kahn, on ne peut pas récupérer d'anciens jours de congé, voilà.
Ah, c'est dommage.
Ah bah, comme vous dites.
Bon, ceci dit, sans regret, remarquez des congés, je suis en congé déjà depuis 2011.
Bon allez, merci. Merci beaucoup, à bientôt.
Je vous en prie.
Le gouvernement a annoncé hier deux nouvelles restrictions. À Marseille, les bars et les restaurants seront fermés à partir de samedi. On est avec la maire de Marseille, Michel Rubirola.
Michel Rubirola, attendez, oui, bonjour. Attendez, c'est Jean-Claude Godin, attendez, je vais voir en cuisine si elle est prête, la voix de Michel Rubirola.
Ah, je crois qu'elle n'est pas prête encore.
Alors, ça en est où là, cette voix? Faut travailler un peu en cuisine. Non, bon, écoutez, c'est pas prêt, on me dit que non. Bon, c'est pas grave, je prends le relais. Bonjour Madame Julie, bonjour à rédaction.
Bonjour. Bonjour Jean-Claude Godin.
Ça, voilà. ça passe tout seul.
Là, c'est sûr qu'on aura tout le temps Jean-Claude Godin. Bon, bah, puisque vous vous dévouez, dites-nous ce que vous pensez de cette fermeture des bars et des restaurants.
Oh, franchement, Madame Julie, j'ai envie de vous dire, je vais être trop trivial, j'ai envie de dire, je tiens de vie. Hein.
Oula.
Mais pourquoi es-tu aussi cruel? Il était temps que je quitte la politique. Jamais je n'aurais pu me résoudre à fermer moi-même des bars, fermer des restaurants de notre belle cité phocéenne. Non, mais comment vont faire, je vous le dis tout de go, tous ces restaurants du Vieux-Port qui vous font d'habitude amoureusement réchauffer une boîte de bouillabaisse Leader Price pour 43,50 €. Non, je le dis franchement, on veut assassiner notre gastronomie locale.
Oui, mais enfin, il faut bien enrayer l'épidémie.
Oui, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faites-le
chauffer.
Non,
c'est pas vrai du tout, là.
Oh là là.
Bon, monsieur Godin, vous comprenez qu'il faut bien enrayer l'épidémie, quand même.
Mais j'entends. Rassurez-vous, l'épidémie va être enrayée. Ah. Il suffit de faire confiance à Saint-Didier, notre sauveur.
Saint-Didier?
Saint-Didier Raoult, prince de la céleste chloroquine. Nous l'entendons tous, nous les Marseillais, mis à l'épreuve. C'est comment vous dire, un test pour évaluer la réalité de notre foi en Saint-Didier. Notre foi est mise à mal. Notre foi sera testée positivement, Julie, j'en suis certain. J'ai confiance, comme tous les Marseillais, en Saint-Didier Raoult.
Oui, c'est ça. Ouais.
Sauf que, bon, là, c'est vrai qu'il a intérêt à se bouger un peu, parce que comme on est les seuls de la métropole en France à se retrouver dans cette situation, on passe clairement pour des crétins. Donc, active-toi, Saint-Didier, active-toi.
Merci Monsieur Godin. Et active-toi aussi Rubirola, là, hein, faut travailler.
Non, c'est une catastrophe, ça a accroché au fond.
Allez, autre chose, le gouvernement a dévoilé une carte intégrant de nouvelles zones, zones d'alerte renforcée, d'alerte maximale. Le Premier ministre est avec nous. Bonjour Jean Castex.
Madame Jules, Monsieur Béliard, Monsieur Mohamed, Monsieur Cabrol, bonjour. Écoutez, nous avons constaté un relâchement des Françaises et des Français, relâchement sur lequel nous les alertons à temps sillon. Si vous n'appliquez pas les gestes barrières, et la situation va empirer et sera bientôt incontrôlable, horrible, catastrophique. Ce sera épouvantable pour autant, tout va bien.
Tout va bien. Ah bon?
Oui, tout va bien. Bon. Que les Français et les Françaises se rassurent. Le gouvernement, sur ce combat, est déterminé. La situation est tous les jours plus compliquée, mais heureusement, et les solutions du gouvernement aussi sont tous les jours plus compliquées. Vous voyez, nous savons nous adapter. On adapte.
Oui,
j'appelle AA.
Vous voulez cependant éviter un reconfinement, hein, pour ne pas nuire aux bars, restaurants, au monde de la culture aussi, les théâtres, les cinémas.
Oui, oui, tout à fait. Car même, et si la situation vire en ce moment à l'apocalypse, même si ça vire à l'apocalypse, bon, il faut bien se dire que c'est une apocalypse, chère Madame Leclerc, qui n'est pas si grave que cela.
Non.
Nous encourageons donc les Français, c'est les Françaises, à continuer à vivre, à apprivoiser la vie avec le virus et aller dans les bars, dans les restaurants, les théâtres et les cinémas. Mais attention, tout en restant chez eux et en ne voyant quiconque.
Ah, c'est une bonne mesure, oui.
Oui, mais écoutez, il ne faut pas paniquer, mais un peu quand même.
Bon.
Juste pas trop, tout est dans la nuance.
Oh là là.
Voilà, soyez rassurés, mais pas complètement.
Merci, monsieur le Premier ministre, c'était brillant.
Et long.
Olivier Véran a demandé à ce que les rassemblements entre amis soient limités dans les zones d'alerte. Il a également annulé les grands événements.
Oh là 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 là, non. Et moi qui devais aller au salon du contrôle de gestion avec des potes.
Ah, Nicolas Barré, notre spécialiste économique, bonjour.
Bah oui.
Vous êtes déçu, ça s'entend. Bah,
super déçu. J'en parle avec Nicolas Bétou, ben ouais, c'est un gros truc, le salon du contrôle de gestion.
Ah oui, j'imagine, oui.
En plus, il y avait une exposition super intéressante sur le management organisationnel des PME de l'ex-RDA. Je voulais y aller avec des amis, j'avais pris des billets et tout.
Ah oui, non mais attendez, hein, pas plus de 10 amis, Nicolas. Hein.
10 amis. Et ça compte si c'est des amis allemands? Des gens de Düsseldorf?
Bah oui, ça compte, enfin. Non, ça ne sera pas possible.
Ah. Bon, de toute façon, je n'ai pas 10 amis allemands. Alors,
vous en avez combien?
Bah, j'en ai pas.
Ah, mais vous nous avez dit que vous vouliez y aller avec des amis.
Si, oui, j'aurais bien voulu, mais je vous dis, j'en ai pas. Bon, de toute façon, c'est annulé, donc ça règle le problème.
Ah bah oui.
Au Marseille, comme ça, personne ne verra que j'irai tout seul. Finalement, ça a des avantages, ces restrictions. Ça se voit moins.
Ça a des avantages, les restrictions. Merci, Nicolas Barré. Restrictions toujours. Tiens, pour lutter contre la Covid-19, de nouvelles mesures vont être imposées, notamment à Paris. On parle de plus en plus d'une mesure qui pourrait être prise si la situation empirait, l'interdiction de la vente d'alcool après 20h. Eh bien, on est en ligne avec la maire de Paris. Bonjour, Anne Hidalgo.
Oh non, pas encore une, non. Attendez, je crois qu'on me parle. Oui, allô, Madame Julie.
Oui, oui, oui.
Oui, bonjour à tous les Parisiennes, les Parisiens, tout ça, machin.
Roger, remets-moi une mentalon, Roger.
Voilà, qu'est-ce qu'on s'amuse en buvant des Montsalons.
Oui, ça s'entend. Alors, vous êtes vent debout contre une éventuelle fermeture des bars et des restaurants. Vous voulez préserver la vie nocturne parisienne. Mais sans alcool, ça ne va pas être simple hein, de faire venir les gens dans les bars.
Mais allons, mais soyez positive, Madame Julie, pas du tout. Qui a besoin d'alcool pour s'amuser? C'est sans alcool, la fête est plus folle.
Oula.
Alors, n'hésitez pas et continuez à aller dans les bars, je le dis aux Parisiens, aux Parisiennes, dans les restaurants pour vous enivrer à coups de vitel fraise, de vitel citron, de vitel framboise. Je vous jure, non mais je veux dire que quand on en boit suffisamment, on décolle, on voit les étoiles. On se croirait Monsieur Cabrol avec son avion dans les nuages, n'est-ce pas Monsieur Cabrol?
Bon, alors moi, je vous fais une confidence. Moi, ça fait 24 heures que je suis au vitellement. Effectivement, je vois des formes bizarres, j'ai des hallucinations depuis hier. J'ai pas l'habitude. Je vais peut-être tenter un panaché. Roger, remets-moi une dépression.
Non, une pression, vous voulez dire, Laurent?
Non. Là, excusez-moi, cher Julie, on se connaît depuis longtemps, je peux vous le dire. Hein, la bière sans alcool, c'est pas une pression, c'est une dépression.
Hein. Non, mais ne dites pas, soyez positif, monsieur Cabrol. Vous êtes en train de vivre à fond la vie parisienne. Paris, ce n'est pas juste les bouchons ou les transports où l'on s'ennuie, c'est aussi des bars ou des restaurants où on s'ennuie de façon... endiablé.
Eh ben on va vous croire. Merci Anne Hidalgo, merci beaucoup. On est passé à côté, mais Jean Lassalle a fait parler de lui le week-end dernier. Hein. Alors qu'il voulait assister à un match de rugby de son fils, il s'est garé sur un passage à niveau, il a ainsi bloqué un train. Bonjour Jean Lassalle.
Je ne suis pas dupe. Madame Gilles, monsieur Béliard, monsieur Gabrol, monsieur Arrête. Je vois que vous ricanez sous le manteau.
Bah oui, écoutez.
Et bravo, camarade Lassalle.
Ah tiens, monsieur Régis, notre représentant syndical
SNCF. Chapeau, mon Jeannot. T'as toutes les qualités pour être un grand syndicaliste. C'est beau ce que t'as fait. Oui, sans échauffement, pas un préavis, rien sans rien. Pends la bagnole en travers de la voie, c'est gonflé. Le train, il roule plus. C'est le bébel de la grève. Le Jason Statham de la SNCF, rejoins-nous, on va faire des grandes grèves ensemble.
Oui, bah c'est bon, le message est passé. On va revenir à vous, Jean Lassalle. Mais c'est quand même étrange de se garer sur un passage à niveau, franchement.
Mais vous ricanez parce que vous n'avez pas la passion du rugby.
Oh là là.
Et oui, il a raison, quand le match va commencer, que vous n'êtes toujours pas garé. Vous ne vous rendez pas compte, ma Julie. Vous êtes comme une bête folle. J'avais mes deux fils qui devaient jouer sur le terrain.
Oui,
le coup d'envoi était donné. Et je me disais, parce que j'ai bagarré, comment je devenais fou dans ma voiture.
Oui, non, mais enfin, quand même.
Je me préparais.
Monsieur Lassalle, quand même.
J'articule, pardon. Je reprends du début.
Mais de là à se garer n'importe où, en particulier sur un passage à niveau.
Mais j'ai tourné en rond pendant des heures, ma Julie. Vous connaissez ça à Paris?
Ah oui, à Paris, oui.
Eh bien, chez moi. À Bedous, dans le Béarn. C'est pareil.
Ah bon?
C'est le Cabrol connaît, je veux dire. Les problèmes sont les mêmes dans toutes les grandes métropoles. Paris, Bedous. Je tournais depuis des heures. Quand soudain, je tombe sur une place. Alors, hop, ni une ni deux, je glisse ma 4L. Gordini dedans. J'ouvre un peu la vitre pour que... Oui, parce que je suis précautionné du respect de la vie animale. J'ai ouvert la vitre. Quoi? Pour que les poules puissent respirer. Je me suis précipité dehors, trop vite d'ailleurs, car en claquant la portière, j'ai croisé le groin de mon copain Fred, mon beau cochon, 375 livres. Ça lui a fait mal à cette pauvre bête. Bon, bref, hélas, la place, c'était un passage à niveau. Vous l'avez dit et répété sur votre antenne, les gens le savent, la France le sait, c'est bon, on va pas faire
voilà.
Tout un plat.
Nicolas, Louis, Julie, merci beaucoup. On retrouve la revue de presse sur Europe 1.fr. 8h58, Philippe Vandel est là, Culture Média, c'est la suite de la matinée.
On est comme la SNCF, on est un petit peu en retard. Notre info média du jour, c'est un doc qui raconte comment scientifiques et chercheurs essayent de trouver des traces de vie ailleurs que sur notre chère planète. Et ils ont découvert de nouveaux mondes ou pas. Spoiler, vous verrez ça. Puis une nouvelle émission hors norme sur une famille qui s'est lancée dans l'immobilier de luxe, mais avec des villas à 10 millions, ça s'appelle L'Agence. Et on voit des clients tout aussi prestigieux, comme par exemple Fabrice Luchini, vraiment énorme. Et puis Franck Tilliez, l'écrivain, mais pas pour un nouveau roman, mais pour le tome 4 de sa BD, La Brigade des Cauchemars.
Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel. Avant de vous quitter, simplement ce message que je viens de recevoir, on va saluer la naissance hier soir du petit César Soldaini. La famille Europe 1 s'agrandit, on embrasse très fort toute la famille évidemment, la maman en particulier,
oui,
qui a le grand frère aussi. 8h59, vous êtes sur Europe 1. Je vous dis à demain, je serai là en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.